Salut tout le monde, si vous voulez louer le studio SF pour faire votre propre podcast ou pour upgrader la qualité de votre podcast, c'est possible. Écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Vous venez ici, le service est tout compris. Vous avez la vidéo, vous avez le son qu'on vous donne tout de suite après votre enregistrement. Il y a Nicole qui va être là pour vous servir, pour vous accompagner dans cette aventure. Le studio SF, on s'assure que la qualité est optimale à tous les niveaux. Et puis, pour amener votre projet à l'autre niveau, c'est vraiment la bonne chose à faire. Alors, écrivez-nous. Ça va avoir plaisir de vous recevoir ici.
Une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin. Avec moi, Doom Plante. Aujourd'hui, Doom n'est pas là pour l'intro. Il est en vacances aux îles de la Madeleine. Le podcast, cette semaine, est présenté par notre page Patreon. Sur notre page Patreon, on a pris l'habitude de faire, après chaque podcast, un petit segment qu'on appelle « Avec encore moins de filtres » ou « Encore moins de filtres » ou « Pas de filtres ». On sait pas exactement le segment s'appelle comment. Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on parle, Doom, moi, Nicole, on parle un petit peu de la conversation qu'on vient d'avoir. Donc, on approfondit nos réflexions, on discute de nos impressions, des points qui nous ont fait cheminer dans la conversation avec l'invité. Donc, c'est vraiment une occasion de débriefer du podcast, de relaxer. Des fois, on s'ouvre une petite bière, on fait juste chiller. Fait que si vous voulez avoir accès à ce contenu exclusif-là, dirigez-vous vers notre page Patreon. Le lien va être dans la description du podcast. C'est également la meilleure façon de nous encourager. Sinon, cette semaine, on a reçu Adib Al-Khalidé. Ça fait longtemps qu'on veut avoir Adib sur le podcast. C'est un de nos invités qui est en tête de liste. On s'écrit, on se répond, ça a donné jamais. Finalement, là, ça l'a donné. Adib, qui évidemment est un humoriste très connu, mais qui a également une histoire extraordinaire. Son père a quitté son pays natal en temps de guerre, fait le tour de l'Europe. Il a rencontré la mère d'Adib au Maroc. Ils sont déplacés parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir des papiers. Ils sont revenus en Amérique. Ils sont venus en Amérique, en fait. Ils se sont installés à Montréal-Nord. Et là, Adib nous raconte un petit peu comment ça a été son enfance, qu'est-ce qui l'a amené vers l'humour, quels ont été les moments marquants, où est-ce qu'il a réalisé que... Où est-ce qu'il a réalisé qu'il était différent des autres, en fait. Une conversation passionnante. On a parlé pendant un long segment de qu'est-ce qui était le beau. Juste carrément le beau. On est allé un petit peu dans la philosophie. Adib, qui juste en parlant, est drôle. Tu réalises rapidement pourquoi il y a le succès qu'il y a. C'est vraiment une personne, un bon vivant. Une rencontre extraordinaire, honnêtement, avec un homme qui l'est tout autant. Donc, participez à la conversation, laissez des commentaires, écrivez vos impressions de ce qu'Adib nous racontait. Également, laissez-nous des thumbs up, des ratings, abonnez-vous à nos chaînes. Vous connaissez le tralala, mais principalement, en fait, profitez de cette conversation-là. Fait que bonne écoute et bon podcast. Yes, Adib.
Allô.
Bienvenue.
Ben, merci les gars de me recevoir. Ça fait quand même un bout de temps qu'on...
qu'on en parle.
Ouais, c'est dans l'air.
Ouais, ça se passe.
Ouais. C'est cool. Depuis que j'ai écouté le podcast que tu es venu faire avec Thomas Levac ici, qui est enregistré dans le studio.
Ouais.
Depuis que j'ai entendu ce podcast-là, j'ai fait « Ah, Adib, ce serait vraiment un invité. »
Ah ben, yo, je sais pas pourquoi... l'autre jour, je me posais la question, pourquoi j'aime les podcasts? J'aime vraiment les podcasts.
Ah ouais?
Je trouve vraiment que c'est... Premièrement, j'en consomme beaucoup. Je pense que ça a changé le monde. J'ai entendu un gars dire que c'était l'équivalent de l'invention de l'imprimerie. Parce qu'il disait pour la première fois, le monde peut genre faire quelque chose et s'instruire en même temps et écouter. On dit qu'on est dans une société où il n'y a plus de attention span, comme les gens, ils sont plus capables de se concentrer. Mais Chris, tout le monde écoute des podcasts qui durent 2 heures, 3 heures. Cependant que tu fais ta vaisselle, ton ménage, t'es dans l'auto, c'est le fun, là, tu sais.
Ouais.
Mais moi, je pense que j'en fais beaucoup juste parce que j'aime parler. Puis, à un moment donné, il va falloir que j'arrête. Vous êtes peut-être parmi les derniers cette année à question.
Mais ouais, mais ça pas, d'ailleurs, ce podcast-là, je pense que c'était moi qui étais là.
Ah, ça
cette journée-là.
Ouais.
Mais je l'ai réécouté aujourd'hui, okay, justement, en faisant de l'auto. Puis les histoires que tu as contées cette journée-là sont incroyables.
J'ai tout oublié. Ah. J'ai tout oublié.
Mais on va pas toutes les repasser, mais ouais, on peut inviter les gens à l'écouter justement ce podcast-là parce que tu racontes l'histoire de ton père,
ouais,
ce qui s'est passé, pourquoi il en est arrivé ici en fait. Là,
ouais.
C'est fascinant. Surtout dans un climat comme actuellement,
ouais,
je trouve que ça met tellement en lumière le courage,
ouais,
des gens,
ouais,
qui viennent ici, qui, ouais, quittent leur pays, qui viennent ici, je trouve que c'est fascinant.
Mais même moi, je savais pas ça, tu comprends?
Ouais.
C'est comme ça m'a saisi, moi, parce que, tu sais, je pense... moi, je suis pas j'ai pas un parcours d'immigrant typique parce que nous, on n'a pas vraiment eu de lien avec la famille en Irak, mm-hmm, de mon père, parce que les téléphones étaient coupés. Mm-hmm. Comme mon père est quelqu'un qui a fui le régime de Saddam Hussein, ça mettait sa famille en, ouais, danger si on rentrait en contact avec eux. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment de famille. J'ai de la famille là-bas, mais j'y connais pas. Ouais. Tu sais, j'ai rencontré un cousin, mm-hmm, en 32 ans d'existence, là. Fait que, tu sais, j'ai pas, la majorité des immigrants ont beaucoup de contacts avec leur famille quand même dans leur pays respectif. Moi, j'avais juste des contacts avec le côté de ma mère. Fait que, tu sais, tout mon rapport à l'immigration pis tout ça, ça a toujours été un peu mélangeant pour moi depuis que je suis petit. Mais dans les dernières années, parce que mon père est décédé, j'ai posé plein de questions. Je voulais...
Ouais.
Ça, c'est fucking important. Tu sais, quand t'as un membre de ta famille qui s'en va, il part avec des histoires.
Ouais.
Tu sais, les êtres humains, on vient tous une fois sur Terre, on vit des affaires. Tout le monde a une histoire fucked up. Quand tu poses des questions à quelqu'un, n'importe qui que tu rencontres dans la rue, il a une histoire que, selon lui, n'est pas intéressante.
Ouais.
Mais que toi, tu vas vraiment, tu sais... Mais moi, j'ai vécu ça avec mon père. Moi, mon père, il n'y avait rien d'intéressant pour moi. Je le connaissais, tu sais. Mais je suis rentré dans des affaires, puis je sentais que lui, à un moment donné, il m'a même dit, on m'a jamais posé des questions sur comment je suis venu ici. Il se rappelait... Ça lui a fait du bien de se rappeler tout, mm-hmm, le courage que ça lui a pris de venir, puis... Tu sais, c'est vraiment l'histoire classique, là. 75$ dans les poches, ouais, il a tout vendu. Ben, mon père, il est parti de l'Irak au Maroc. Il s'est installé, non, il est passé par l'Europe. Je me rappelle, ça m'a fait rire Thomas, ouais, Levac, parce que tant qu'à fuir un régime dictatorial, passe par Paris. Je pense que c'était comme le genre de joke.
Ouais.
Puis là, après, il est allé s'installer au Maroc. Puis au Maroc, quand ma sœur et moi, on est nés, moi, j'ai deux sœurs, là, mais ma grande sœur est née au Maroc, je suis née au Maroc. Puis le gouvernement marocain a dit à mes parents que, parce que mon père est irakien, mm-hmm, on n'aurait jamais de papier. Fait que,
mm-hmm,
là, il a vendu, il y avait une petite librairie. Il a vendu sa librairie, il était professeur dans une école. Je pense que c'était vraiment, tu sais, la petite école, première année ou quelque chose de même. Puis on vivait dans un petit village dans le désert. So, c'était vraiment une vie... tu sais, les gens, ils s'imaginent que tout le monde qui quitte parce qu'ils, genre, ils crevaient la dalle ou...
ouais.
C'est pas nécessairement ça. Des fois, c'est juste une petite vie. Mais tu sais, nous, dans notre cas, on n'avait pas de papier puis on n'en aurait jamais eu.
Ouais.
Mais quand tu y penses à ça, là...
C'est impossible.
T'avoues, hein?
C'est comme, impossible.
On dirait que ça prend du temps avant. Moi, ça me prend un peu de temps avant de faire... Comment j'aurais vécu une vie sans papier?
T'aurais jamais pu être un citoyen.
Ouais, de rien.
Ouais.
Tu disais quelque chose, justement, dans le podcast de Thomas Levac, parce que tu disais, tu sais, souvent, il y a des gens qui sont fâchés,
ouais,
contre les immigrants illégaux qui n'ont, ouais, pas leur, ouais, papier. Ils ont pas de papier, man.
Ouais, c'est ça. À la base...
C'est ça le pire, là.
Ouais. À la base, ils ont pas de papier, puis... Le pire, c'est que s'ils retournent chez eux, mais tu sais, ça, c'est comme, c'est le gros clivage qu'il y a chez les gens, mettons, qui sont défavorables à l'immigration.
Ouais.
C'est qu'ils ont vraiment l'impression que quand quelqu'un vient ici, il va vivre au crochet de l'État, c'est l'État, mm-hmm, qui doit s'occuper. Mais comme, je sais pas avec qui ces gens-là ont chillé, mais moi, tous les immigrants que je connais, ils viennent ici, puis la première obsession qu'ils ont, c'est travailler,
ouais,
et mes enfants vont devenir des diplômés universitaires. C'est comme les deux traits,
ouais,
extrêmement dominants dans la culture immigrante, là, tu sais. Fait que je sais pas comme d'où ces gens-là sortent l'espèce de... Hey, ils vivent au crochet de la... Hey, mes taxes, ça, c'est avec mes taxes. Non, non, bro, ce gars-là, il vient, ouais, il va contribuer.
C'est qu'ils n'ont pas chillé avec des immigrants, dans le fond.
Exact.
C'est pour ça, c'est ça le problème. S'il y avait chillé avec des immigrants...
ils sauraient que...
Il n'y aurait pas cette idée-là, il n'y aurait pas cette
pensée-là. Ouais, ils sauraient que genre, nos parents, même si on n'était pas bon à l'école ou si on n'écoutait pas, ou tu sais, des affaires de même, c'est comme... C'était dur là pour nous. C'est genre, on avait des discours de « J'ai quitté mon pays!
»
Pour que t'ailles à l'école? Toi, t'es juste comme « Yo, j'ai coulé l'examen de fraction, laisse-moi tranquille! »
Tu fumes des battes en faisant de l'impro.
Non, moi, mes parents étaient comme « Si je t'attrape avec de la drogue, je t'envoie traire des moutons au Maroc. » Ça, c'est le genre de... Ça, c'est le genre de menace
qui fait peur.
Que j'avais à genre 10 ans. Non, bro, j'ai pas envie de traire des moutons. Je savais même pas qu'on pouvait traire des moutons. J'apprends ça, là.
Ouais, c'était comme, hey, tu vas avoir une tape, c'est fait. Genre, on n'est pas dans le même registre de menaces.
Non, c'est ça, c'est ça.
Même ça se fait plus. Ça.
Puis, ça se fait plus, puis je savais que c'était pas vrai. Ah, c'est plus... comme toi, tu savais que c'était vrai.
Moi, je savais. Dans les yeux de ma mère, j'étais comme, elle a des contacts de gars qui ont des moutons. Elle va m'envoyer, je traire des fucking moutons. Fait que non, on essayait de. Tu sais, c'est ça. Je pense que les gens, ils ont comme un misconception avec l'immigration. Parce que je pense que le Québec, en général, il y a quelque chose que. Tu sais, comme c'est drôle parce que. C'est drôle parce que chez chaque Saint-Jean, il y a comme un scandale. Il y a comme tout le temps une affaire.
Ouais.
Moi, je suis persuadé que. D'un point de vue très, très, très reculé, là, avec beaucoup, beaucoup de perspectives. Pas dans le day-to-day, mais avec beaucoup de perspectives, tous les êtres humains sont des immigrants à un degré différent.
Mm-hmm.
Tout le monde est arrivé quelque part à un moment ou à un autre, puis c'est juste à force d'être en interaction avec l'écosystème dans lequel tu vis, la nature, la température, tout ça, il y a des traits de culture qui se développent et ça te donne l'impression que c'est chez toi. C'est normal, tu sais. Mais tout le monde est arrivé quelque part. Tu sais, tu regardes l'histoire de l'humanité. Les peuples bougent sans arrêt. Mais ça, on dirait qu'il y a personne qui veut. Il y a personne qui veut sortir sa tête de son cube et dire c'est normal que les peuples bougent.
On est tous africains, là, dans le fond. Là, quand tu retournes au départ, là.
Mais c'est ça, je me rappelle plus ce qu'il disait ça. C'est comme, il appelait ça le croissant doré, là. Où est-ce que apparemment.
Tout le monde viendrait
de ça, puis là, ça s'est éparpillé, tu sais, sur toute la planète. Puis même, tu sais, ici, là, au Québec, là, tu sais, les Européens ou les Occidentaux qui sont arrivés ici, ça fait pas si longtemps que ça.
Non.
Tu sais, comme ça fait vraiment pas si longtemps que ça pour penser qu'on n'est pas immigrant, on l'est, là.
Ouais.
C'est combien de générations, tu sais? Je veux dire, c'est pas autant de générations que ça.
Mon grand-père, il a quasiment 100 ans, là. C'est 400 ans. C'est juste 4 fois sa vie.
Ouais, c'est ça.
C'est pas tant que ça.
C'est 4 grands-pères potentiels, 4, 5, peut-être 6, parce que l'espérance de vie, ça bouge un peu, mais tu sais, ça reste, à quelque part, ça reste ça. Puis, je sais pas, il y a quelque chose au Québec. Des fois, j'ai peur, moi. J'ai peur de où ça s'en va parce que, à cause de la pandémie, j'ai recommencé à lire La Peste d'Albert Camus. Ouais. Parce que
il y a beaucoup de monde qui sont retombés dans La Peste. J'avais une discussion par rapport à ça dernièrement. Moi, ça date du cégep. Là,
ben, moi aussi, puis je me rappelle de rien. Puis Albert Camus, c'est genre, pour moi, c'est mon top. Là. Ouais. Mais je me rappelle pas du livre. Je l'ai lu trop jeune. Puis je me disais, pourquoi ils nous font lire des livres bons comme ça, jeunes, puis après ça, on vit notre vie en ayant l'impression qu'on l'a lu. Tu l'as pas lu, Esti. T'étais obligé, t'avais 17 ans, mais t'as fait ça en deux niaiseries, genre... À la radio étudiante, là. Qui lit La Peste à la radio? Anyways.
Ou t'as lu un synopsis sur Internet pour répondre à ton examen.
Ouais. Puis tous tes amis t'ont aidé avec leurs notes de cours. C'est pas, j'ai relu La Peste, puis comme dès le début, il y a un rat, deux rats morts, trois rats morts. Après ça, genre, il compte, il y a une journée, il y a 6000 rats morts. Puis c'est tout le monde au début fait juste dire ça va aller, c'est correct, ça va passer. Ou il y en a qui vont faire comme, ah, c'est dégueulasse, mais ça va passer. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose avec tous les commentaires racistes que je vois sur Internet. J'ai l'impression que c'est comme des petits remords, pas les gens, là, des commentaires.
Ouais.
Que tu fais genre, ah, c'est tombé dégueulasse, c'est ce que je viens de lire, mais c'est pas grave, il y en a pas tant que ça, ça va passer. Ouais. Puis finalement, quand tu comptabilises, t'es comme, où est-ce que ça s'en va, là, tout ça? Y a-tu une maladie de société qu'on va devoir comme, on va devoir avoir une réelle conversation là-dessus, puis se dire comme, c'est pas une vie que tu veux pour aucun être humain, tes enfants, tu veux pas une vie pour tes enfants où l'autre est synonyme de guerre, de conflit, tu sais, c'est weird qu'au Québec, il y ait ça.
Tu sais, juste tantôt, j'ai regardé ta story, tu sais, des commentaires qu'il y avait par rapport à Dominique Anglade, là, tu sais, qui a juste dit au monde de mettre leur masque.
Comme ça,
tu sais,
a juste dit au monde de mettre leur masque. Ça n'a même pas rapport avec quoi que ce soit de racial. Puis c'est comme retourne dans ton pays, nanana, puis des insultes vraiment horribles basées sur la race. Puis tu te dis, Chris, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du monde qui pense de même, ça me flabbergasse.
Puis le problème, c'est que là, tu sais, là, il y avait les grosses compagnies qui décident de boycotter Facebook tant que leur traitement des commentaires haineux sera pas à un autre niveau.
Ouais.
Mais même ça, c'est un peu de lever le tapis puis de balayer.
Se mettre un plaster sur un bobo
en dessous du tapis pour cacher, tu sais, parce que. Au final, de censurer des gens qui ont des commentaires haineux, ça va juste faire que dans leur cercle intime, ils vont continuer à entretenir ça, ils vont continuer à élever leurs enfants comme ça, ils vont continuer à... Ouais. Tu sais, au lieu d'avoir une discussion, en fait, c'est comme un peu un cul-de-sac, on dirait, là, cette situation-là.
Mais tu vois qu'il y a eu beaucoup de progrès par rapport à l'homophobie, quand même. Là, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais moi, quand j'étais jeune, c'était normal d'être ouvertement homophobe. Puis j'entendais des adultes, là.
Dans mon langage, faut que je me check parce que j'ai encore des slangs qui partent, là.
Ouais.
Genre, hey, c'est bien gay, ça. C'est bien gay, ça.
Ouais.
À quel point il était normalisé.
Ouais.
À quel point, dans un domaine de sport, à quel point de traiter l'autre personne de fif, c'était quelque chose qui était...
Genre, t'as pas été...
Jusqu'à très récemment, en fait, c'était quelque chose qui était super accepté.
Et là, maintenant, les gens vont plus le faire. Les gens vont moins le faire maintenant parce que tu veux pas être le gars dans je sais pas où, le vestiaire, là, qui dit quelque chose, puis que là, il y a quatre personnes qui font comme « Yo, bro, comme... » Ça va, là?
Ouais. Dave, il est gay.
Ouais, Dave, il est gay. à moins que Dave dise, OK, yo, c'est comme, faites-vous en pas avec ça, on peut niaiser. Puis, mais comme, tu peux pas juste. En fait, il y a comme une forme de. J'ai l'impression que quand l'individu se sent rejeté par le groupe pour son comportement, il a tendance à se remettre en question.
Ouais, absolument.
Puis je dis pas que l'exercice c'est de rejeter les gens, mais moi ce que j'aime mettons de tout ce qu'on a vécu récemment du Black Lives Matter qui pour moi est comme le porte-étendard de toutes les luttes. C'est-à-dire que si la cause des Noirs avance, toutes les autres
minorités,
formes de minorités ou de personnes, si on veut, dans des situations opprimées, vont en bénéficier parce que c'est une lutte qui dure depuis tellement longtemps. Puis moi, ce que j'ai aimé de ce mouvement-là, ces derniers temps, c'est de voir des Québécois de souche, des Québécois blancs, vraiment prendre la parole, puis partager des affaires, puis tout, parce que ça a plus d'impact que si c'est moi.
Ouais.
Moi, les mondes qui viennent m'écouter, ils sont déjà... vendu à la différence.
Ouais.
Je suis différent, tu comprends? Fait que quand tu vois des influenceurs ou des gens qui s'adressent vraiment plus à comme une masse populaire faire ça, moi je suis persuadé que ça éduque le monde. Ça les rend moins mal à l'aise de se tenir debout puis dire, tu sais, comme un souper de Noël, si quelqu'un fait une joke raciste ou homophobe ou whatever, moi je trouve pas ça drôle, c'est comme moi je trouve que j'ai des amis, tu es en train de niaiser du monde ou avoir de la haine envers du monde que moi j'aime, tu sais, c'est la seule manière de faire avancer le truc, c'est nous dans nos cercles intimes de dire. Puis moi j'ai dû faire ça dans ma famille, tu sais, parce que moi je pense que la prochaine étape après que ce genre de combat là soit livré, c'est que les fils filles d'immigrants se retournent vers leurs parents, leur communauté, puis disent là vous nous laissez être des Québécois, là vous nous laissez devenir 100% des Québécois, comme on va honorer nos racines, mais on est des Québécois, on vit ici là. Parce qu'il y a comme...
Vous vivez quasiment un double...
Ouais.
C'est comme entre deux, parce que d'un côté... Mais c'est ça que je t'entendais justement dire dans d'autres podcasts, c'est que d'un côté, si tu t'assimiles trop, c'est mal vu dans ta communauté.
Ouais.
Puis vice-versa.
Puis c'est stupide parce que c'est juste une question de temps.
Ouais.
Là, j'ai 32 ans, fait que je le vois. C'est une question de temps avant que tu réalises que tous ceux qui te jugeaient, eux aussi, ils s'assimilent autant que toi. C'est juste... Est-ce que le jugement, ça, c'est chaque fois que je juge quelqu'un, quelques jours plus tard, je réalise que mon jugement m'a empêché d'être curieux, ok, face à ce que je jugeais.
Ouais.
Fait que j'haïs ça, mais je juge moi. Je dis pas que je juge moi. Je vois des affaires, puis je suis comme, c'est quoi ça, est-ce que... Puis là, je réalise, c'est la même chose dans nos communautés. On juge des affaires, on se ferme à la curiosité, puis quelques années plus tard, tu croises la personne qui te jugeait, puis t'es comme, yo, tu fais ce que tu me disais que comme je pouvais pas faire, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, ça demande du courage quand t'es un immigrant, devenir un Québécois.
Ouais.
Parce que souvent, t'es seul, surtout quand t'es... comme moi, dans ma famille, j'étais dans la communauté, j'étais comme le petit rebelle, comme celui qui voulait vivre une vie à sa manière, sans nécessairement sans nécessairement avoir des comptes à rendre à ma communauté. Puis d'un autre côté, ça a été quand même facile pour moi parce que ma vie était différente de tous les immigrants avec qui j'étais. Tu sais, mes parents sont divorcés, j'ai pas de famille, on nous obligeait pas à aller dans les gatherings religieux, tout ça comme nous. C'était assez, j'ai pas tant de liens d'appartenance comme j'ai des amis qui en ont avec leur communauté, mais j'en ai un de cœur, puis j'en ai un de culture, dans le sens où j'ai grandi avec des Arabes, ouais, principalement, dans mon quartier à Ville-Saint-Laurent, dans le nord de la ville, où moi j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Chamoland. C'est comme ça qu'on l'appelait, les gens appelaient notre quartier Chamoland parce qu'il y avait juste des Arabes et des Afghans puis des Pakistanais puis des Noirs. Puis Chamoland. Non, mais il y avait des Blancs aussi, il y avait, honnêtement, c'est pour ça que moi j'étais fasciné, parce que quand je suis sorti de mon quartier, j'étais détruit. Moi, quand je suis arrivé au cégep, j'étais détruit parce que pour la première fois de ma vie, il n'y avait pas des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Chinois. Moi, j'ai grandi dans un quartier, il y avait de tout, pour vrai, ouais, et de toutes les classes sociales. Il y avait des gens super riches. Il y avait des... Tu sais, ma rue à Ville-Saint-Laurent, moi, j'habitais dans une espèce de cité d'immeubles, comme plein de gros blocs. Mm-hmm. Puis en face de chez moi, c'est du monde qui avait des duplex, puis des belles maisons. Puis, c'était pas le genre de quartier où il y avait juste des cités, ouais, juste des espèces de HLM. Mm-hmm. Fait que j'ai grandi. Nous, on n'a jamais senti l'écart pauvre-riche ou la couleur de peau. En grandissant, là, c'est pas quelque chose que j'ai senti. Pour moi, j'étais normal dans mon quartier. Vraiment, là. Mm-hmm. C'est quand je suis sorti de mon quartier au cégep, puis j'arrive en...
T'es allé où?
Au Cégep Saint-Laurent, en cinéma et communication. Puis j'arrive, puis je suis le seul immigrant du programme.
Wow.
Puis là, je regarde autour de moi, et je te jure, comme ça m'a pris des années avant de comprendre le traumatisme de la solitude, là, de faire comme... Genre, tout le monde vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu sais, comme... Mm. Moi, j'ai jamais été là. C'est un monde de différence, là, entre le gars de Ville-Saint-Laurent qui a grandi avec... toutes les cultures, même à mon école secondaire, il y avait de tout, là. Vraiment, ouais, là, il y avait... Puis quand je dis de tout, c'était comme... Même avec une bonne proportion, là, tu sais, c'est pas... C'était... J'ai grandi de 8 à 15... C'est quand qu'on quitte le secondaire? 17 ans?
16 ans.
16, 17, ouais. J'ai grandi de 8 à 16 ans, là, dans un monde... Vraiment, là, ça ressemble à l'ONU, là, tu sais. C'est comme du monde de partout, puis... Fait que moi, c'était ma conception du monde. Pour moi, c'était ça, le monde. Ouais. Puis là, après, quand je suis arrivé dans le monde des adultes, là, j'ai découvert autre chose. Puis dans le milieu artistique, la même chose. Je suis arrivé, puis comme j'étais le seul immigrant. Puis les quelques immigrants qui étaient là, j'ai pas eu de contact avec eux. Ça a pris des années avant que, genre, on réussisse à se parler. Puis même là, on se parle, ouais, on se parle pas nécessairement.
Toi, quand t'es arrivé sur les bancs d'école, tu le remarquais justement, ce clash-là, cette différence-là, mais est-ce que les gens te le faisaient sentir, ou est-ce que les gens te considéraient ou te percevaient différemment des autres, ou...
Sur les bancs d'école, tu veux dire aussi?
Au cégep, mettons.
Non, je pense que les gens étaient comme... Tu sais, comme... Je pense que c'est comme... Ça se passe pas de manière consciente. Tu sais, mettons que t'as grandi dans un quartier où, comme, tout le monde est blanc, puis là, t'arrives au cégep, puis comme, il y a un gars qui a grandi dans un quartier où comme ça parle un peu différemment, ça voit le monde un peu différemment, c'est un peu tu vas pas sentir que vous avez des choses en commun, soit tu vas juste être peut-être indifférent,
neutre, ouais,
indifférent. Moi, j'ai pas senti de genre on chill pas avec lui parce qu'il est de même. Moi, j'ai plus senti de genre j'ai rien en commun d'évident, d'apparent. Comment tu fais pour dig deep puis montrer que ta vraie personnalité quand t'es comme en pleine quête identitaire, t'as, ouais, t'as 17 ans, t'es au cégep, t'es, ouais, comme qu'est-ce qui m'attend? Moi, je me suis beaucoup réfugié dans la radio étudiante avec mes amis. Je me suis fait des amis, toutes des espèces de outsiders du système, des gens un peu à l'écart. Et je me suis recréé comme une espèce de communauté qui ressemblait à mon école secondaire, du monde de toutes les cultures. Mais tu sais, moi, mes meilleurs amis, là, j'ai des meilleurs amis qui sont québécois de souche. J'ai des meilleurs amis qui sont d'origine haïtienne, libanaise. J'ai un beau-père qui est vietnamien. C'est comme j'ai vraiment, je suis tellement chanceux, là, puis j'ai des amis très très proches dans la communauté LGBTQ+, genre je suis chanceux, j'ai rien choisi de tout ça, tu sais, je baigne dans un écosystème où par la force des choses, tu sais, comme j'ai j'ai des amis qui sont venus me raconter leur fort intérieur, s'ouvrir à moi en tant qu'ami. So, j'ai jamais eu à vivre comme un immense écart avec, mm-hmm. avec tous ces groupes-là qui luttent en ce moment.
Ouais.
Je suis chanceux, tu sais. Je me mets à la place de ceux qui ont jamais été en contact avec des gens ouais. différents.
Parce que c'est sûr que, tu sais, toi, tu l'as dit, quand tu arrives justement dans une période où est-ce que tu essaies de comprendre, quitter,
ouais.
puis je veux dire, ça, c'est le cas pour tout le monde en rentrant au cégep ou dans ces âges-là, tu sais, l'adolescence puis le début de l'âge adulte,
ouais.
essayer de comprendre, quitter. Toi, tu as eu la chance de trouver un milieu, c'est-à-dire, mettons, là, la radio étudiante, ouais. où est-ce qu'il y avait des gens comme ça que tu as réussi à... Qui étaient tous un petit peu comme ça, mais j'imagine que pour certaines personnes, quand tu arrives à cette recherche-là, puis tu réalises que ce que tu es,
mm.
ça concorde pas vraiment avec ce que tout le monde autour de toi est,
mm.
probablement que tu as tendance à essayer de répresser ce qui te rend différent.
Exact.
Puis d'essayer de fitter avec tout le monde.
Là. Exact. Puis ça, c'est la
triste,
pire chose.
C'est ultra triste, mm-hmm. ça.
Je trouve que dans mon... Moi, j'aime ça voir comme la vie, comme c'est une expérience. T'sais, tu viens une fois. Moi, je suis fasciné par le fait qu'on vient une fois.
Ouais.
Tu sais, comme tu viens... Oui, OK, on peut-être il y a un potentiel de réincarnation, mais tu viens une fois, techniquement.
c'est débattable. Oui, c'est peut-être qu'il y a un potentiel de réincarnation.
OK, je veux pas aller bouder. C'est
le jury n'est pas arrêté là-dessus.
Écrivez-moi pas pour me dire, tu vas revenir en fourmi. Comme... peut-être je reviens en fourmi, mais ce que je veux dire, c'est comme on vient une fois. Ça, moi, je suis fasciné par cette idée-là. Tu sais, puis comme tu viens une fois, puis tu as une chance d'être toi-même.
Ouais.
Puis être toi-même, c'est fucking compliqué. Mais c'est simple, mais c'est estique, c'est compliqué.
Oui.
Mais sur papier, c'est simple. Juste sois toi-même. Tout le monde le dit. De partout. Le plus important, c'est d'être toi-même.
Reste toi-même. C'est qui? C'est quoi? Ça,
ouais,
c'est...
mais en pratique, être toi-même, c'est comme, c'est un asti de combat parce que.
Ouais. Faut le découvrir. C'est pas juste de l'être, c'est de le découvrir aussi. T'sais.
Exact. C'est comme une aventure.
Ouais.
Découvrir t'es qui, c'est une aventure. C'est comme faire. Défricher à l'intérieur de toi toute la marde que t'as accumulée puis tous les costumes que t'as accumulés puis tous les tics puis les codes que t'as accumulés pour ne jamais être différent ou ne jamais trop être exclu d'un groupe là. Puis plus t'avances dans la vie puis tu comprends que ok genre il faut que je me débarrasse de tel costume, tel masque, telle affaire, tu peux tranquillement devenir toi-même puis ça fait du bien, mais ça vient avec beaucoup de... c'est des deuils devenir soi-même, mm-hmm. parce que tu réalises que des gens autour de toi tu les as intégrés dans ta vie par mensonge, tu comprends? Par nécessité de soutenir un mensonge que tu faisais croire à toi-même, tu sais? Fait que ça c'est un bout qui est dur dans la vie. Moi, je pense que c'est l'âge adulte, là, autour de 27-30 ans que tu commences à réaliser ces choses-là. Mais au cégep, tu sais, t'arrives là, tu veux thrive comme tout le monde, tu sais? Tu veux sentir que, à cet âge-là, tu sens que le monde... et devant toi, puis que genre tout est extraordinaire, tout ce qui s'en vient. Fait que moi, j'ai vécu beaucoup de solitude dans mon programme au cégep. À cause de ça, j'ai vraiment abandonné mes cours. Là. J'écoutais plus, j'allais plus en classe, je comprenais rien, j'étais juste comme « what the fuck ». En plus, il y a des gars qui avaient ri de moi parce que genre j'avais nommé mon film préféré, puis là, eux, c'était comme « ah, c'est facile comme choix,
ils connaissent rien en cinéma ».
Puis j'entends
qu'ils aiment Pulp Fiction,
ouais,
tout le monde aime Pulp Fiction,
c'est ça, que j'ai dit. Puis là, il ricanait, puis là, ça m'a tellement fait, tu sais, comme...
C'est tellement un bon film.
En plus, c'est tellement un bon film, tu sais. Puis là...
No shame à aimer Pulp Fiction.
Non, mais tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est comme... Il n'y a pas de débat là-dessus, mais à l'époque, là, avec des jeunes gars, des jeunes filles de 17 ans qui veulent montrer que, genre... Tu sais, quand t'as 17 ans, tu veux juste tellement montrer que t'es plus en avant.
Moi, j'écoute du Bergman.
Ouais, exactement. Genre. C'est pour ça que, genre, la réponse était comme facile. Puis moi, ça m'a tellement fait mal, puis j'étais comme... Je suis pas bon, comme... Je suis pas bon. Eux, ils sont bons. Eux, ils sont nés là-dedans. Eux, ils voient ça depuis qu'ils sont petits. Moi, je connais. Moi, mon meilleur film, c'est Pulp Fiction. OK, fuck, je suis peut-être pas fait pour faire du cinéma. So, j'ai abandonné, moi, le cinéma.
C'est fou, pareil.
À mon premier cours.
Débile. Ah ouais, hein?
Ouais, à cause de. Mais j'ai pas abandonné parce qu'après ça, j'en ai refait.
Ben oui, c'est ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, j'étais comme.
C'était fini. Ben, c'est pas assez bon, là.
C'est pas pour moi. Mais en plus, tous les réals, c'est toujours les plus cool au cégep. Puis même quand tu vieillis, là. La majorité des réals, c'est les personnes cool.
Des leaders.
Ouais, comme des espèces de leaders. Pour la plupart, des leaders négatifs. Tu sais, comme,
ouais.
Tu sais, du monde qui veulent des positions de pouvoir. à la base, c'est questionnable. Comme moi, pour moi, t'es censé découvrir ton leadership. T'es pas censé l'imposer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme t'es censé, dans, à travers ta route, réaliser que « Ah, fuck, je suis peut-être un réal, esti. Il va falloir que, genre, j'apprenne à faire « Ah, tabarnak. » Ça vient comme avec un... pour moi, c'est pas comme... T'es pas censé te réveiller un matin comme « Je serai un réalisateur! » C'est comme, qui fait ça? Genre, je compose. En tout cas, moi, c'est pas... Moi, dans la vie, j'ai l'impression que se découvrir, ça vient avec une part de « Il faut que je développe ça maintenant. Il faut que je développe cette aptitude-là, OK? » Parce que, genre, ça résonne en moi. Je dois raconter des histoires. Je me sens bien quand je raconte une histoire. Oh, ouais. OK, mais au cégep, c'est genre le gars qui a le plus d'amis. Comme, en quoi ça corrèle avec raconter des histoires? Le gars qui a le plus d'amis, tu comprends? Comme,
fait que si à 17 ans, tu sais que tu veux être réal pour justement booster ton ego, il y a quelque chose de louche là-dedans. Là.
Ben, pas nécessairement, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui pour vrai, il y a des gens qui savent, jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis je veux pas discréditer du tout ça, là. Mais je trouve qu'il y a comme un, entre les exceptions, là, il y a comme une espèce de monde de...
C'est normal de se chercher, là, puis de le découvrir.
Ouais, exactement, exactement. Parce qu'on se fie souvent sur les exceptions.
Ouais.
Pour ben, dire...
C'est souvent, le monde se penche sur le 5% au lieu de considérer le 95%.
Celui qui est un génie là, à 15 ans déjà, qui avait tout compris.
Ouais,
déjà,
mais Einstein n'était pas bon en maths. Ouais, mais arrête. Tous les autres grands scientifiques étaient bons en maths.
C'est vrai.
T'sais, c'est ça pour vrai. Là, c'est comme...
C'est vrai.
T'sais, combien d'artistes ont travaillé tellement fort pour longtemps. le 1 qui l'a eu en naissant puis qui était juste insane dans ça.
Le succès instantané, c'est l'extrême minorité, puis c'est les histoires qu'on aime raconter, là, l'histoire de Cendrillon, là, que ça fonctionne tout seul, mais t'sais, c'est du travail, là, pis c'est long, puis souvent un succès même instantané, c'est parce que tu le vois pas, tout le travail qu'il y a eu en arrière, mais il y en a eu en crise.
Exact.
Il y en a qui ont travaillé 10 ans dans l'ombre pour avoir un succès instantané, entre guillemets.
Exactement,
là,
exactement. Puis moi, c'est ça que... Moi, c'est ça que j'aime en vieillissant, c'est le travail. J'aime le monde qui connaissent la valeur du travail. J'aime les gens. C'est pour ça que, genre, je préfère chiller avec un paysagiste qu'avec un artiste. OK? Je préfère chiller avec un gars qui travaille en construction, un mécanicien, que chiller avec un artiste. Parce que, genre, comme je m'identifie pas nécessairement au monde artistique. Moi, j'aime le monde que, genre, ils se lèvent le matin puis ils vont travailler pour gagner leur vie. C'est, moi, c'est de là que je viens. J'aime pas le monde qui sont comme, j'ai une position particulière, privilégiée, parce que, genre, tout le monde admire les gens dans l'espace public. Fait que, yeah, est-ce que je suis une star? Moi, ça m'écœure, cette affaire-là. Comme, moi, je chill encore avec les mêmes amis que j'avais quand j'avais 8 ans, puis ma famille, ils vivent dans le même quartier où j'ai grandi, puis comme... Je pourrais pas réconcilier une vie de vedette avec cette vie-là, tu comprends? Je suis obligé de rester le gars que je suis.
Je me rappelle la première fois que je t'ai vu en vrai. Je pense que c'était Mont-Royal, si je me rappelle bien, qui était fermé.
OK.
Puis je marchais avec ma sœur, puis ça fait longtemps. Là.
Je sais où tu t'en vas, je sais.
T'étais assis, bien relax, sur une chaise. Tu jasais avec un gars qui apparemment... devait être ton ami, qui était en train de faire cuire, c'est comme les rues sont fermées, puis il y a plein de cuisiniers, de food court. Là, le gars était en train de faire cuire genre de la viande avec de la coriandre, puis je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Puis toi, tu lui parlais de même, tu sais, comme zéro jet set, là, juste avec le dude qui est là, qui fait cuire son truc.
Il faisait des sloppy joes.
Ouais, exact, c'est ça, exact.
C'est un de mes bons amis à Nice, il a un café, il s'appelle le Kawa Café sur Mont-Royal, puis quand il ferme la rue...
Mon histoire est attirée.
Mais j'aurais voulu que tu m'aies vu pendant que je servais le monde. Parce qu'on changeait de...
me servait un sloppy joe.
Non, je servais, puis il crie. Et à chaque fois que je vais l'aider, parce que c'est toujours les ventes de trottoir, genre.
Ouais, c'est ça.
Chaque fois que je vais l'aider, il commence à crier, genre, « Venez, c'est la vedette de ma qualité qui va vous servir. » Je suis comme, « Ferme ta fucking gueule, bro. » Qu'est-ce que tu sais? Comme moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, j'aime le côté... J'ai pas choisi d'être un artiste. J'ai pas choisi toute cette vie-là. Je connais le pouvoir qui vient avec. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir là, dans l'espace public. Là.
Ouais.
Puis j'ai vu trop de gens, y compris une partie de moi ou une partie de moi à un certain moment, la possibilité de se corrompre soi-même. Le pouvoir, ça corrompt les gens.
Absolument.
Tu ne peux pas connaître quelqu'un avant qu'il ait eu du pouvoir. Quand il a du pouvoir, c'est là que tu le connais. C'est là quand il y a de l'argent ou comment on peut... qualifier le pouvoir, c'est souvent...
L'admiration aussi, ça...
Admiration,
souvent,
argent,
souvent,
sexe...
Souvent, ça part de là,
c'est admiration pour admiration argent, sexe puis je sais pas, genre tu sais des perks partout où tu vas, genre ouais, le monde
il te laisse passer,
mais... tu sais, des espèces de privilèges là, ouais. Tu sais, ça c'est le pouvoir. Là quand t'as ça, là tu peux connaître quelqu'un. Puis moi je suis pas un fan du milieu. Moi je suis pas un fan, comme je le dis ouvertement, comme ouais. J'ai individuellement j'aime tout le monde, comme je peux aimer tout le monde,
ouais.
Mais le milieu, la culture de ce milieu-là, comme je j'ai pas envie de dire un mot agressif, j'ai mes réserves, ouais. J'ai mes réserves
le
par
milieu
rapport à elle.
Du show business québécois, mettons.
Ouais, comme j'appelle ça l'espace public plus que le showbiz, parce que okay. Pour moi, dès que tu sais, aujourd'hui on a plusieurs façons de devenir très connu.
Ouais.
Fait que c'est plus juste le showbiz, c'est vraiment comme l'espace public. À partir du moment que genre t'as une position que tu peux dire j'ai une tribune, les gens me suivent, me voient. Je suis pas d'accord avec la culture qu'on véhicule. Ouais.
Qu'est-ce qui sont les points avec lesquels ça l'accroche pour toi? Est-ce que c'est l'espèce de du moins de mon point de vue, l'espèce de milieu incestueux, ou est-ce que on engage les mêmes gens, on célèbre les mêmes gens, qu'est-ce qui est problématique?
Ça, à quelque part, le fait qu'on célèbre les mêmes gens, c'est ça qui est aussi le gros défi, je trouve, quand vient le temps de critiquer un milieu, mettons, dans lequel tu travailles, c'est que des fois, tu peux critiquer puis sentir au fond de toi, quand tu t'accordes un moment de vérité puis d'intégrité, tu te dis ouais, je critique parce que aussi ça me fait chier, moi j'aurais voulu être là, j'aurais voulu avoir ci. Fait que ça, je mettrais ça de côté, parce que je pense que dès qu'il y a comme une possibilité de jalousie d'impliquer ou quoi que ce soit, mm-hmm. ça vaut plus rien, c'est void, ouais, le ouais. débat, tu sais, tout le monde aimerait ça briller, puis tout le monde aimerait ça être dans une position où t'es complimenté, où t'es apprécié, puis on dit bravo, ça me dérange pas. Je dirais plus comme le fait que, par exemple, dans le milieu de l'humour, je trouve que c'est aberrant. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui commence à faire de l'humour, j'ai de la peine pour lui.
Ah ouais?
Ouais, j'ai de la peine pour un jeune ou une jeune qui commence aujourd'hui puis qui se dit « je vais faire de l'humour », parce que le milieu est comme, n'a qu'une seule vocation, c'est le rendement. C'est okay. La seule vocation. C'est comme tout le monde veut devenir connu puis vendre des affaires. Puis je suis pour ça. Devenons connus, vendons nos affaires, mais il n'y a pas de place pour l'art.
Ouais.
Il n'y a pas de place pour comme... J'en reviens, je suis fasciné par une industrie au grand complet qui idolâtre Yvon Deschamps, qui est un putain d'artiste, là. C'est un artiste, mais genre pur et dur. Tu lis son ouais. histoire à ce gars-là, c'est un fucking artiste, mur à mur, là. Il a tout fait, tu sais, comme... Des shit qu'aujourd'hui, on pourrait même pas imaginer... tellement c'est audacieux, tellement c'est le fun. Je vois pas, tu sais, je vois pas de la place pour un Yvon Deschamps au Québec. Je vois pas comment un Yvon Deschamps deviendrait Yvon Deschamps aujourd'hui au Québec. Je ne vois pas ça. J'ai pas l'impression que un gars qui monte sur scène, un gars qui monte sur scène pour raconter l'arrivée d'un noir dans son quartier, puis faire un numéro au complet là-dessus, puis créer une commotion dans le public, puis qui est un débat, une discussion sur des c'était tout le temps, c'était tellement fin puis artistique ce qu'il faisait. Je vois pas aujourd'hui comment un artiste en humour pourrait se dire moi je vais suivre ma voie, ma vocation, puis je veux. T'es obligé de te camper d'un bord ou de l'autre, puis c'est trop polarisé.
Ouais.
Soit t'es comme dans le mainstream, soit t'es dans la marge, puis t'haïs le mainstream. C'est comme, et où l'entre-deux? Et où l'entre-deux ouais. de genre, juste le gars ou la fille qui veut juste faire de l'art?
Ouais. Je suis pas un expert du milieu de l'humour, là, puis,
ouais.
mais j'ai l'impression qu'au States, t'as des humoristes qui réussissent à être vraiment mainstream, mais à porter des messages et des causes vraiment fortes. T'sais, mettons, là, une couple d'années, t'avais sur Netflix le show Nanette là,
ouais,
qui était tombé là. Puis ça avait polarisé justement est-ce que c'est de l'humour, est-ce que ça n'est pas. Mais c'est quelqu'un qui monte sur scène puis qui prend position ouais. claire. Puis ouais. qui fait son truc puis que ça ne dérange pas de déplaire.
Ouais.
Ou mettons des Dave Chappelle qui. T'sais, juste le dernier show qui est sorti, là, ouais. 8:46.
Ouais.
C'est fucking pas drôle là, dans ouais, le sens ouais. que lui, il monte sur scène pour parler de son message. Puis j'ai l'impression que, je sais pas si c'est au Québec, on a plus de la misère à déplaire, on a plus de la misère à confronter. Je sais
pas. En fait, ce que j'aime, les exemples que tu nommes, puis il y en a beaucoup d'autres, puis en fait, je mets pas au centre de mon argumentaire le fait de mettre de dire des choses ou revendiquer. Moi, je mets au centre de mon argumentaire un écosystème qui favorise le devenir soi-même.
Ah, ouais,
tu sais, comme devenir quitté. Puis c'est tellement insidieux parce que tu rentres dans des milieux. Ça, puis je suis sûr que beaucoup de gens le vivent dans leur milieu de travail où la culture qui est là, juste parce que tu veux pas être trop différent puis pas trop déplaire puis pas trop ci puis pas trop ça, favorise à ce que tu deviennes quelqu'un que t'es pas.
Ouais.
Puis c'est ça que je trouve qui est triste, mettons. Ça, je peux parler du milieu de l'humour parce que je le connais bien, mais je l'aime ce milieu-là, puis j'aime beaucoup, beaucoup mes collègues. J'adore mes collègues. Hier, j'ai fait un show devant des autos.
Ouais.
Tu sais, puis j'ai vu mes collègues, puis je leur ai dit « Je vous aime, si je suis content de vous voir. » J'ai rien contre mes collègues. Moi, quand je parle de ces choses-là, c'est vraiment en termes d'une culture générale de genre, tu commences en humour, puis là, c'est comme, faut vite que tu sois quelqu'un de punchy, il faut que tu aies des rires
faut
à chaque
fois. Faut que tu ailles dans tous les talk shows.
Ouais, faut que tu ailles à des talk shows, puis là, il faut que tu deviennes connu, puis il faut que la madame te connaisse, puis il faut que les maths. Tu sais, comme, oh, ferme ta fucking gueule. On peut-tu. Tu sais, il est où l'espèce de justement, le il est où le chemin pour celui ou celle que peut-être il va jamais devenir connu, mais comme, il va gagner sa vie à être lui-même, il va être heureux. C'est ça qui me fait chier. C'est qu'on ne favorise pas être heureux. Ouais. On favorise réussir.
Moi, j'aimerais 100 fois mieux être un peu connu pour quelque chose dont je suis vraiment fier qu'être très connu pour quelque chose que j'ai fait parce que je savais que j'allais être connu pour ça. Tu sais ce qu'on veut dire? J'ai l'impression qu'il y a comme... Il y a probablement plusieurs chemins pour devenir connu, mais tu sais, mettons, t'as deux chemins. T'sais, t'as le chemin de quelqu'un qui va faire de quoi d'authentique, puis ça va donner que ça va résonner avec du monde, puis que ça va, il va se passer quelque chose, puis là, cette personne-là va devenir connue, t'sais, mais en faisant son truc. T'sais. Mais t'as aussi des fois, puis ça se voit, puis ça se sent, j'ai l'impression des fois, l'espèce de OK, mon end goal, mon but, c'est être connu, comment j'y arrive. Puis là, tous les moyens sont bons, tu sais. Puis là, quand que tous les moyens sont bons, c'est là que ça devient weird et problématique, là, j'ai l'impression. Tu sais, quand t'es prêt à tout devenir connu, là.
Mais, tu sais, au centre de ce problème-là, ou cette problématique-là, il y a une question d'argent, tu sais, parce que l'art au Québec est souvent subventionné par l'État. C'est pas le cas en humour.
Non.
Fait qu'en humour... t'as des producteurs.
T'as tout compris.
Puis en humour, t'es obligé de faire de l'argent pour être capable d'avoir un rendement. Puis les producteurs sont tout à fait au courant de qu'est-ce qui va s'assurer de vendre des billets, qu'est-ce qui va réussir à rendre ça profitable, puis qu'est-ce qui va te réussir au final à gagner ta vie. Maintenant, si l'humour était considéré comme de l'art, au même titre que des subventions sont données pour des films, des films qui seront pas rentables au box-office, par exemple, mais qui vont faire rayonner puis qui vont permettre à du monde, que notamment ton frère Pascal, de vivre en étant un artiste, en étant le plus proche possible de qui ils ont envie d'être, probablement que ça viendrait aider la problématique, j'imagine.
Non, t'as 100% raison, mais tu mets le doigt dessus. C'est comme... C'est un milieu qui est très peu subventionné. Il y a des subventions, il y a des crédits d'impôt, il y a des shit comme ça, là, mais c'est un milieu qui est très peu subventionné. Donc, pour survivre dans ce milieu-là, il faut faire de l'argent. OK, moi, je suis un capitaliste, là. Moi, je suis pas un gars qui... Moi, je suis pas... le communisme, si
on se partage... Tu donnes pas du ton argent à l'État à chaque année.
Non, des fois, les gens, on dirait qu'ils ont oublié que le communisme, ça a tué plus que genre 120 millions de personnes, des fucking goulags ou en Chine ou au Cambodge.
Ça n'a pas marché,
Non,
ça n'a pas marché. Puis
là, l'argument, c'est genre... Ah non, mais ça n'a pas été fait... Tu sais, à quel point t'es fucking arrogant pour penser que la façon que toi, tu vas le faire, ça va marcher? C'est parce que t'as jamais eu de pouvoir, tu comprends? T'as jamais été quelqu'un qui a du pouvoir, le pouvoir d'une fucking civilisation entre les mains, pis t'es comme, sais-tu quoi? Je suis plus la même personne, fuck tout le monde, c'est dans mes poches.
Ouais, c'est ça.
C'est mal connaître la nature humaine.
Exactement. Avoir 25 femmes ici, ça sonne comme une bonne idée. Puis y a personne qui peut rien dire.
C'est ça. En tout cas, je veux pas réduire ça parce qu'il y a chose de charmant dans l'idée qu'on se partage tout, mais en même temps, même pas, parce que j'ai déjà été super fan de genre le communisme, l'anarchisme, toutes ces choses-là, jusqu'à ce que je lise l'histoire et je fais yo, ça c'est pas bon, mais comme le monde, il meurt.
On avait lu
L'histoire de Che Guevara.
L'histoire de Che Guevara, on est allé en Cuba, puis on a fait genre un espèce de tour de bus où est-ce qu'on a lu le Wikipédia au complet, tu sais, puis il y avait une phrase qui était vraiment clé. C'était une fois qu'ils ont décidé, tu sais, à Cuba de rendre ça communiste.
Ouais.
T'as Che Guevara qui travaillait 80 heures dans un champ par semaine à comme se défoncer pour la communauté. Puis là, la phrase d'après, c'était « Mais rapidement, le taux d'absentéisme t'a monté radicalement. »
Ah, c'est ça.
Puis comme ça...
Hey, je peux rester chez nous, puis genre, l'argent va rentrer pareil, mais l'autre va travailler. Enfin, hein, c'est ça.
Sounds good. Sounds good to me.
C'est ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de plus en plus, ou je sais pas, c'est peut-être le même. Il y a beaucoup de gens qui détestent le capitalisme, puis je le comprends à 100%, parce que je trouve qu'on vit encore dans une ère de capitalisme sauvage, là, c'est-à-dire le profit à tout prix. Mais il y a clairement des changements avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. De plus en plus de gens peuvent devenir entrepreneurs, avoir un contact avec leur communauté. Quand tu es en contact avec ta communauté, puis ils disent, yo, pourquoi tu mets tel produit dans ton truc, là? C'est comme, c'est cancérigène. OK, ben genre, je vais le retirer. Tu peux maintenant avoir une espèce d'interaction. Je dis pas que c'est parfait, là. Je sais qu'il y a plein de choses mais j'ai l'impression qu'on se dirige tranquillement vers un capitalisme un peu plus civilisé. Puis ce que j'aime, pourquoi j'ai dit, moi je trouve que le capitalisme, ça te donne l'opportunité de faire ton argent, puis faire ce que tu veux avec ton argent, puis si tu veux, redistribue-le, donne-le, comme on parle pas de, moi je vais jamais venir ici puis dire aux gens qu'est-ce que je fais avec mon argent, mais comme ça fait partie de mes valeurs d'aider du monde autour de moi, puis d'aider des gens que je connais même pas, puis je vais pas venir me brag about, tu comprends, comme j'aime cette opportunité là que j'ai de mettre mon argent au service de mes valeurs. Puis je trouve que c'est dans les pays communistes que j'ai visités, comme le Vietnam, c'est pas quelque chose qui semble possible, OK?
Ouais.
Comme j'ai vu des policiers au Vietnam arriver avec leur camion à 5 km/h, ça m'a marqué. C'est à ce moment-là que j'ai fait, oh mon Dieu, toutes ces années-là, je pensais que le communisme, il y avait comme quelque chose de beau, mais j'ai oublié que l'être humain, comme quand il y a du pouvoir, c'est quelqu'un de fucked up, là, potentiellement. Mm-hmm. C'est tous les policiers, ils arrivent avec un camion qui roule à 5 km/h, puis ils marchent à côté du camion, vraiment avec arrogance, là, puis ils regardent les paysans, c'est une espèce de souk, marché public, là. Puis là, ils ramassent ce qu'ils veulent chez les artisans puis les vendeurs dans la rue, puis ils le mettent dans le camion. Puis les gens, ils sont tous comme accroupis puis dans la peur. Mm. Puis là, quand les camions partent, le monde reprenne leur vie. Ça, c'est comme... Wow! Tu vois ça, puis t'es comme... Ça, c'est leur vie à tous les jours, à ces gens-là. À tous les jours, il y a quelqu'un qui peut venir ramasser ce qu'ils ont... Tu sais, comme... Il est où le bonheur là-dedans? C'est pas quelque chose que tu vivrais au Québec, là. Au Québec, ouais. Tu peux prospérer, tu peux te dire, tu sais quoi, moi, j'aime planter des plantes. Je vais planter des plantes, ouais. Ça, je vais faire. Puis tu peux gagner ta vie à planter des plantes. Tout ce que t'as à faire, c'est être bon, puis faire des contacts. Et je veux dire, c'est génial quand tu y penses. Ouais. Mais tu peux pas faire ça partout sur Terre. Ça, en tout cas, bref, tout ça, je disais, moi, j'aime le capitalisme. C'est pour ça que j'ai rien contre le côté rendement de mon industrie. Mais je pense que si le Québec décidait à quelque part à m'amener d'élargir un peu, puis de d'offrir une opportunité à des, je sais pas, un différent type d'humour, puis c'est même pas moi qui en bénéficierais, parce que moi je fais relativement de l'humour grand public, là, ça va bien mes affaires, je suis pas là-dedans, mais c'est juste, je regarde les plus jeunes qui commencent, puis des fois j'ai l'impression que la seule façon de réussir, c'est de se coller encore au modèle des années 90. Puis, bref, mais on n'est pas obligé de parler d'humour.
Ouais. Mais ton histoire, excuse.
Non, ben, c'est parce que plus largement que l'humour, tu sais, moi, mettons, je suis allé à l'Université Laval en littérature.
OK.
Puis, t'as un enseignement qui est donné qui est le même pour tout le monde.
OK.
Fait que t'as les mêmes professeurs, t'as les mêmes devoirs, t'as les mêmes façons d'écrire, t'as les mêmes choses qui sont enseignées. Puis ça, j'ai l'impression que ça tue un petit peu l'unicité. Ça rend un peu...
Ça tue la diversité ou l'unicité?
Ouais, je suis tellement d'accord.
L'unicité de chacun.
Ah, OK, ouais.
Ça tue l'unicité de chacun. Tu sais, j'ai l'impression que t'arrives là avec tes idées. Moi, je me rappelle que quand je suis sorti du cégep, j'avais une façon d'écrire qui était ultra sporadique, qui était vraiment dans entre le réel et l'imaginaire, qui était vraiment, tu sais, ultra unique. Puis je me rappelle d'exercices d'écriture que j'arrive là, puis au début, je fais mon propre shit, tu sais. selon comment je l'avais instinctivement, selon comment je le vivais en moi. Puis là, tu as des notes qui sont misérables.
Ouais, ouais.
Puis là, quand finalement, tu te prêtes réellement à la technique qui est enseignée, ouais. Là, les notes commencent à monter, puis là, tu fais « bon, mais c'est ça que je dois faire », tu sais.
Ouais.
Puis je sais pas si c'est le cas...
c'est la même chose.
Je sais pas si c'est le cas, tu sais, à l'École nationale de l'humour, qui à mon... Qui est, à mon sens, à moi, d'un œil complètement extérieur, puis t'es même pas obligé de te mouiller sur ce dossier-là, mais qui est, à mon œil, à moi, une drôle de façon de concevoir l'humour comme étant un art que tu peux enseigner, tu peux l'encadrer, mais étant un art que tu peux enseigner puis modeler, ça m'apparaît comme bizarre comme façon de le voir.
Ben, ça,
j'ai l'impression... En tout cas.
Hier, je parlais avec un... Avant-hier, j'ai fait un podcast avec un gars en Belgique que je connais pas. Puis j'étais comme, yo, j'aime le podcast, let's go. Puis là, il me disait, genre, tu me conseilles-tu d'y aller? Puis j'étais comme, je sais pas, mais je sais pas quoi te dire. Comme, je pense pas que ça s'enseigne. Tu sais, je pense pas que l'humour, ça s'enseigne. Puis je pense pas que le stand-up, surtout, ça s'enseigne. C'est une maladie pour moi, le stand-up. C'est une vraie maladie mentale. Dans le sens que si t'es pas obsédé, ça arrivera jamais. C'est trop dur, comme c'est trop souffrant. Il y a trop d'échecs. Chaque jour est un échec. Si t'es pas obsédé, maladif mental, là, tu sais, comme je vois pas comment tu peux y arriver. Fait que je comprends même pas comment ça pourrait s'enseigner. Je pourrais pas enseigner à quelqu'un à faire de l'humour.
J'ai l'impression, puis peut-être aussi que le parallèle se fait avec la musique.
Ouais.
J'ai l'impression que ça crée des techniciens. Des gens qui sont capables de comprendre les mécanismes,
ouais.
De devenir peut-être écrivain pour quelqu'un d'autre, de devenir musicien pour quelqu'un d'autre, mais j'ai pas l'impression que ça avive la flamme artistique.
Ouais.
Puis ça, c'est peut-être ça qui manque de plus en plus, je trouve, des trucs que t'écoutes puis que tu fais comme, tu sais, ils vont des chances, c'est un bon exemple, des trucs que tu vois puis tu fais, ok, non, là, ça, c'est quelque chose d'autre.
Ouais.
Là, je viens de voir quelque chose d'autre, tu sais.
Mm-hmm.
Peut-être la personne qui mettons, en humour, qui me fait dire hey, « ça, c'est quelque chose d'autre », dans les dernières années, c'est Julien. Mm. Julien Lacroix, qui est arrivé dans le milieu de l'humour, tu fais « tabarnak, c'est quoi ça?
Mm.
Qu'est-ce que je regarde là? Genre c'est de quoi que j'ai pas vu, tu sais. »
J'ai
pas l'impression que je peux dire la même chose pour beaucoup de shows que je vois, puis sortons de l'humour, mais même de shows de musique, tu sais, de faire « ok, non, là, on est... » ailleurs, man. Complètement.
Ouais,
ailleurs,
ouais.
Artistiquement ailleurs.
Là. Mais tu sais, c'est dur, tu sais, comme le milieu, c'est dur. Comme, tu sais, genre, mettons, je sais pas comment dire, comme, tu sais, comme un Louis-José, c'est comme une sommité, là, dans notre milieu. Mm-hmm, puis, ouais. Louis-José, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus d'un Yvon Deschamps. Dans le sens que ce qu'il fait, un jour, c'est sûr, ça va être étudiable, ça va représenter le monde, la vie des Québécois, ouais. Comme il porte en lui la vie des Québécois. Dans tout son stand-up, quand tu l'analyses, c'est du fucking génie. Puis il est jeune encore là, pour un humoriste. Là. Il n'est pas encore rentré dans l'âge d'or, ouais. Yvon Deschamps-esque. Là, c'est-à-dire, Yvon Deschamps, je pense que c'est comme autour de comme 50 là, qu'il y a du gros stock qui a commencé à... Avant ça, je pense qu'avant ça, il faisait beaucoup de théâtre. Mais tu sais, la portion humour, là, c'est... Puis c'est ça, il y en a, là, je dis pas qu'il n'y a pas de... Mais quand encore une fois, je quitte les exceptions pour dire le bassin, là, tu sais, comme il y a beaucoup de... Le bassin, puis je pense que c'est la même chose dans tous les milieux.
Ouais.
C'est comme, comment on fait pour que dans le bassin, là, pour les personnes qui vont pas devenir, genre, des exceptions, pour qu'ils soient heureux. Puis j'ai l'impression qu'on a complètement tassé ça de la conversation au travail, tu sais, comme... On voit tellement de gens qui réussissent. Là. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu le rêve de tout le monde de devenir connu, comme tout le monde veut être connu.
Le rêve est facile d'accès aussi. Tu ouvres dans ta poche, on a tous dans notre poche un miroir vers la célébrité.
Ouais.
Puis de voir le monde, tu fais crime. OK, ouais. Ça a l'air hot.
Je suis arrivé en retard dans cette affaire-là, moi, de comprendre que genre... Comme j'ai découvert YouTube pendant la pandémie. Moi, YouTube pour moi, c'était comme l'endroit où j'allais checker des clips de temps en temps ou des vidéos. Tu sais, comme j'ai découvert que YouTube, c'est un réseau social.
Mm-hmm.
Genre, les gens, ils vivent de ça. Ils ont leur following. Ils
collaborent ensemble.
Oui, ils collaborent ensemble. Puis j'ai vraiment été fasciné. Je suis en retard, pas par. même pas par négligence, je savais pas. Comme moi, pour moi, YouTube, c'est ce que j'avais découvert au cégep. C'était le truc qu'on allait voir du Dave Chappelle ou ouais. des sketchs ou genre de la musique. Dans ma tête, ça a toujours été ça.
Mais... Il y a toute une sous-culture de monde
ouais.
ultra famous là, ouais. chez un certain public, chez les jeunes.
Ouais.
Puis que jamais ma mère ou ta mère ouais. a jamais entendu parler de ces personnes-là. Ils sont pas dans les médias traditionnels, ouais. mais ils sont huge.
Exactement.
Il y a une affaire aussi de toute cette sous-culture-là. Ils font ce qu'ils veulent.
Ouais, c'est vrai.
Ils font ce qu'ils veulent, puis il n'y a personne qui peut leur dire quoi faire.
Ouais.
Puis ça, c'est hot quand même.
C'est très hot. C'est très, très hot. Jusqu'à ce que il y en a un ou une, ou tu sais, comme, qui veut commencer à faire de l'argent, mais comme du vrai. Ça, ouais. Du vrai argent.
Il y en a qui font
là.
Du vrai argent. Là.
Je sais qu'il y en a qui font du vrai argent, mais ce que je veux ouais. dire, c'est que si tu veux faire du vrai argent, tu es obligé de commencer à regarder les modèles.
Ouais,
tu comprends? Ouais. Puis ça revient toujours au même problème, c'est que quand tu veux réussir, puis tu veux à tout prix réussir, tu te mets toujours à imiter ceux ou à emprunter des codes de ceux qui réussissent. Mm-hmm. Puis dans ce chemin-là, tu oublies tout le temps que le plus important, c'est que tu sois heureux quand tu te couches le soir. Ouais. Tu as l'impression que tu es en synchronicité avec tes valeurs. Puis ça, il n'y a personne qui nous l'enseigne.
Ouais.
Jamais, tu sais. Mais...
Ce que tu viens de dire, là, être en synchronicité avec ses valeurs pour être heureux, je pense que ça résume le truc, là, tu sais.
Ouais.
Vraiment, tu sais. Puis justement, si tu penses que la célébrité, c'est la chose qui va te faire aller mieux,
non.
tu te trompes.
Tu risques de sombrer dans une profonde dépression.
Si t'as des bobos, si t'es pas bien, si t'as quoi que ouais. ce soit, c'est pas le fait d'être connu et même riche qui va les régler. Là.
Ouais.
T'es encore là, même des fois, ils vont être pires. Là, fait que...
Mais pour faire l'avocat du diable avec, ouais. avec tout cet argumentaire-là, je suis d'accord avec ce que vous dites. Là, d'être en synchronicité avec ses valeurs, parce que c'est vraiment un excellent terme.
Mm-hmm.
C'est sûr que c'est ça qui est optimal, mais j'ai l'impression que c'est facile à dire.
Mais pas facile à faire.
Mais vraiment difficile à faire. Quand, mettons, moi, je m'imagine, là, je veux être heureux, OK? Mm-hmm. Fait que là, je pars une chaîne YouTube où est-ce que je fais 100% ce qui me tente.
Mm-hmm.
Combien de temps je peux le faire sans faire une scène? Combien de temps je peux le faire sans...
Mm.
Combien de temps je peux continuer de même? Faut gagner notre vie.
Ouais.
Il n'y a personne qui va venir... Là, en ce moment, tu peux le faire parce que ouais, tu mais... te fais donner une PCU à chaque mois. Mais,
ouais, ouais.
mais comment
mais
tu
si
y
arrives? Mais si t'aimes pas ça, je veux dire, si t'es obligé de faire autre chose, trouve quelque chose que t'aimes.
Non, mais mettons que c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'aime faire.
Ouais, mais là, on rentre dans l'affaire
que,
de...
C'est pas parce que t'aimes faire que tu vas être capable de le monétiser puis de gagner ta vie avec ça. Tu sais, fait là, à un moment donné, c'est quoi? C'est, admettons que ton plan A, c'est d'être YouTuber, puis que ton plan B, tu sais, on dit souvent, si t'as un plan B, c'est que t'as pas de plan A.
Ouais, ouais.
Mais de dire ça,
mais c'est pas
ça
vrai.
Avait joué un moi, peu
moi,
encore. Là,
moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, mon plan A, c'était pas de devenir connu, je vous le jure. Là. C'était mon...
Ah, mais je te parle même pas de devenir connu, je te ouais. parle juste de réussir à gagner ta vie de ta passion.
Moi, c'était mon plan A, c'était de gagner ma vie avec la passion, mais je comprends ce que tu dis, là. Mais je suis même d'accord avec toi. Mais ça
J'ai l'impression que c'est... clairement, on vient de milieux tout à fait différents,
ouais.
tu sais, mais j'ai l'impression que en ce moment, c'est le genre de choses que c'est extrêmement privilégié de pouvoir dire. Tu sais, toi, t'as pas eu un privilège comme le mien de naître dans une famille nantie, etc., ouais. etc., mais t'es quand même privilégié d'avoir un talent extraordinaire. Puis ça, je pense que personne va le nier.
T'sais. Ça, je pense que je suis encore en train de pas comprendre que j'ai des affaires qui sont faciles pour moi, qui sont
ben,
plus tough
c'est
pour
ça,
d'autres.
Mais moi,
j'ai de la difficulté.
Je te le garantis. T'sais, okay. On le sait, on le voit, là, t'sais, on t'entend parler, on sait que t'as ce talent-là. Genre, t'es arrivé ici, t'es assis, puis tu parles, puis c'est juste drôle. T'sais, j'ai envie de rire parce que tu parles. T'sais. Puis, mais c'est vraiment pas tout le monde qui a le privilège d'avoir un talent
ça, j'ai
aiguisé
ouais.
dans quelque chose,
mm.
puis d'avoir la réelle capacité de vivre de sa passion.
Mm.
Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doivent arriver à un moment où est-ce qu'ils doivent...
Combiner un petit peu...
Un petit peu combiner ou peut-être settle
ouais.
pour quelque chose qui les fait pas trop chier.
Ouais.
Puis qui leur permet de gagner leur vie parce qu'on vit dans cette société-là. Fait que je pense que de dire, tu sais, de dire, c'est ça, synchronicité entre sa passion puis son, puis gagner sa vie. J'ai l'impression que ça vient d'un endroit privilégié de pouvoir dire
ça. Mais t'as raison, je te donne raison. J'ai un gros problème avec ça. J'ai de la difficulté des fois à juste me rappeler que yo, t'es dans une situation comme où il y a des choses qui sont faciles pour toi que ça te permet d'avoir une vision du monde, donner ton opinion, blablabla.
Quand je te disais ça, je m'incluais aussi, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, de pouvoir dire ça, c'est comme là, c'est un peu ça que je fais dans ma vie, mais je suis conscient que je suis privilégié de pouvoir faire ça, tu sais.
Ouais. Mais tu sais, c'est comme, ça revient, ce que j'aime, en tout cas, il y a un point en commun avec ce qu'on dit, c'est que ça revient à, il faut trouver une manière de laisser ta véritable identité naître ou exister à un moment ou un autre, là, tu sais, parce que tout va être compliqué, même si t'as tout le talent du monde, puis même si t'as tous les privilèges du monde, il y en a pas un ou une pour qui faire ce que t'as à faire, puis faire qu'est-ce qui résonne en toi, comme, c'est pas facile pour personne, ça. C'est ça.
Je pense aussi que le genre de choses qu'on dit en ce moment vient de trois personnes qui ont des aspirations at large, artistiques. Mm. Puis j'ai pas l'impression que le bonheur, c'est ça pour tout le monde. Tu sais, il faut pas oublier non plus que souvent, il y a du monde que leur passion, c'est d'avoir une maison, une famille, puis que ça, c'est leur passion.
Oui, j'adore ça.
Puis que ce qui leur permet de vivre de leur passion, c'est de travailler, par exemple,
ça,
40 heures dans une place qui n'est pas nécessairement une passion, mais qui amène vers la passion.
Mais parlons-en de ça. Parlons-en, parce que c'est un fléau de société en même temps. Ce que tu viens de nommer, c'est soit la plus belle option que tu as ou vraiment un fléau où tu as l'impression que tout le monde haït ce qu'il fait. Tu sais, comme il y a tellement de plus en plus de gens qui te parlent de ce qu'ils font, puis ils détestent ça. Puis ça me ramène à... Yo, tu viens une fois sur Terre, comme tu vas vraiment juste passer ta vie à... Je sais pas.
Mais tu sais, c'est qu'on fait pas uniquement que travailler, tu sais, puis il y a des gens qui sont prêts à faire, je pense, le sacrifice, entre guillemets, de faire quelque chose qu'ils aiment correct, mais ce qu'ils aiment vraiment, c'est ce qu'ils font le soir, leur hobby ou justement leur famille, tu sais, puis la réalisation personnelle vient pas dans le travail, nécessairement
non,
dans le travail.
Non, tout à fait, exact.
Tu sais, puis être en synchronicité avec ses valeurs, ça peut être dans n'importe quelle sphère. Tu sais, mettons, justement, si toi, ce qui est important pour toi, c'est la famille, passer du temps avec tes proches, puis tu sais, t'investir là-dedans, fais ça, tu sais.
Ouais.
Fais ça, puis peu importe c'est quoi, c'est juste de le trouver, puis ce sera pas nécessairement dans le travail.
Tu sais, juste dans ce que tu viens de dire, tu sais, mettons quelqu'un qui tripe vraiment sur le triathlon, tu sais, il veut faire du triathlon absolument, tu sais, puis que ça c'est sa passion numéro un, c'est le triathlon. Les chances qu'il soit un triathlète professionnel sont extrêmement faibles, tu sais. Fait que là, comment je fais pour faire du triathlon le plus souvent possible? Ben, je fais un job qui me permet d'arrêter à 5 heures puis d'aller faire du triathlon.
T'sais. Ouais, ouais, ouais.
Là, tu vis le plus proche possible
ta journée
à parler du triathlon.
Yo, mon premier producteur en humour, il était obsédé par le triathlon. Il ne faisait que me parler de ça. J'étais comme, bro, j'ai 24 ans. Comme, je sors mon premier show et j'ai peur. Pourquoi tu me parles de triathlon? Comme, qu'est-ce qui se passe là? Mais il était vraiment obsédé.
Ah, c'est sûr, c'est sûr.
Puis je pense que là.
Ça prend tellement de temps dans ta vie que c'est la
seule chose.
Je pense
qu'il s'est investi, là.
C'est ça, exact.
Mais je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Mais tu sais, comme, aussi quand je parle, mettons, comme là, on est dans, tantôt, je me sentais plus dans une conversation, mais là, j'ai comme pris conscience qu'il y a des gens qui écoutent, là, tu sais, il y a des gens qui, peut-être qu'on est dans un bout de la conversation, il y a des gens qui, la majorité des gens se cherchent.
Tout à fait.
Puis même moi, comme, j'ai l'air de savoir de quoi je parle, mais il y a un pan de ma vie où je me cherche encore beaucoup, beaucoup. Puis je pense à ces gens-là qui sont comme, qui font des affaires qui aiment pas, mais, c'est dur de faire ces décisions-là. C'est dur de faire... Et en fait, tout vient avec un sacrifice. T'as pas le choix. La notion de sacrifice est fondamentale à n'importe quelle aventure, n'importe quelle quête. Si tu veux avoir telle affaire, tu dois sacrifier telle chose.
Tu dois choisir.
Exactement.
Sans dire sacrifice, choisir quelque chose.
Mais moi, j'aime l'idée du sacrifice. J'aime l'idée que, genre, je vais avoir un certain déplaisir aujourd'hui pour avoir comme un avenir qui ressemble à un idéal que je m'étais fixé. Ouais. J'aime bien ce côté-là de... Puis je pense que ça aussi, c'est un truc, mettons, à l'école, on nous apprend pas que dans la vraie vie, c'est de même, ça marche. Tu sais, comme, revenons au fait que tout le monde veut être connu aujourd'hui. Moi, j'ai été faire, j'ai fait un court-métrage il y a comme 3-4 ans, puis il a fallu que je trouve un acteur arabe puis un acteur noir enfant. Il n'y en a pas au Québec dans les agences. So, évidemment, j'ai passé les agences, puis après ça, j'ai été dans les quartiers, dans mon quartier d'enfance. J'ai passé des auditions. J'ai passé en audition 150 noirs et arabes de 10 ans, OK? Puis comme, tous me disaient avec des étoiles dans les yeux que, parce que je leur faisais tout à peu près la même audition, avec des étoiles dans les yeux que leur rêve, c'était de devenir connu.
Mmh. Ouais.
Pas acteur ou chanteur ou connu. Ça, c'est comme le rêve. C'est je sais pas si... J'en revenais pas à quel point, genre, c'est... Connu, c'est pas un métier. Il y a comme.
Ça en est devenu un.
Ça, oui, mais comme. C'est, même si tu veux devenir. Il faut que t'apportes quelque chose à la table.
Quelque chose pour te rendre là.
Oui, il faut que t'apportes quelque chose. Même si tu fais rien, mais ton rien doit être un quelque chose
qui
fait que les gens, ils sont comme. Ils se reconnaissent.
Ouais.
Puis si tu veux que ce soit. J'ai juste sustainable dans la tête, mais si tu veux que durable. Ça perdure, durable, genre, il faut que. Faut que tu sois capable d'avoir une certaine discipline, faut que tu sois capable de sacrifier des affaires dans ta vie. C'est comme ça vient avec tout un modèle de travail que tu vas être obligé d'apprendre. Comme, je veux dire, il y a pas de, je trouve ça fucked up.
Et pourquoi? Puis qu'est-ce que tu vas faire avec justement, on parlait de pouvoir tantôt, qu'est-ce que tu vas faire avec ce pouvoir-là, une fois que tu vas être connu, tu sais, puis tu dis, tu sais, on connaît vraiment quelqu'un quand il a du pouvoir, mais justement, c'est, les influenceurs, c'est ça qu'on disait l'autre jour. C'est super quand l'influence est bonne, puis c'est mauvais quand l'influence est mauvaise, là, je veux dire. Puis il y a de tout, il y a des deux, tant qu'à moi, tu sais. Mais justement, si tu veux être connu, trouve-toi une raison, tu sais, pour laquelle tu fais ça.
Ouais.
Tu sais, moi, ça me fait capoter qu'il y ait tellement du monde avec tellement de pouvoir, puis tu sais, on parlait des capitalistes tantôt, il y a du monde. Tu sais, genre Jeff Bezos, demain matin, il peut arrêter la faim dans le monde, là, si ça y tente. Là.
Mais tu penses vraiment qu'il pourrait faire ça?
Ben, il pourrait le faire probablement pour un bout ou pour du moins un grand nombre de personnes.
Moi, je pense que si Jeff Bezos donne $1 million à une famille qui n'a pas d'argent, la famille, ça va la détruire.
Possiblement.
Ils vont tous plus parler, ils vont se battre pour l'argent. Comme moi, je viens d'une famille pauvre. Comme je dis pas que ma famille aurait fait ça, mais comme je le sais que l'idéal de comme sortir les gens de la pauvreté qu'on se fixe dans la tête, c'est une affaire qui me fascine avec les gens. Mettons, quand je suis arrivé dans le milieu, je pensais que les gens... moi, je me vois comme une personne plus à gauche. Je me vois comme une personne à gauche. Je pensais que les personnes à gauche, ils comprenaient que genre, moi, je viens de la pauvreté, mais comme toutes les personnes d'où je viens, ils veulent devenir riches.
Ouais.
Ils veulent pas devenir comme... Ils veulent ce qu'ils voient, là.
Ouais.
Tu comprends? Bon. Comme, sauf quand t'es à gauche puis tu te bats pour les pauvres, là, tu te bats pour du monde que leur rêve, c'est de faire de l'argent un jour puis d'être dans une peau. Tu sais, comme... Puis je dis pas ça pour dire... je pense vraiment que donner trop de quelque chose à quelqu'un qui est pas prêt à le recevoir, c'est comme faire bencher quelqu'un genre 200 livres quand il peut juste bencher 50. C'est pour ça que, genre, oui, je pense que des riches pourraient sauver le monde, mais je pense qu'il y a comme une manière de donner qui est raisonnable pour pas déstabiliser complètement un écosystème. Déstabiliser, fait que c'est juste... Des fois, mais ça revient au pourquoi les gens veulent être connus. Mm-hmm. Parce que les gens veulent la belle voiture, ils veulent le luxe, ils veulent le resto, ils veulent sentir que genre ils ont des prétendants, des prétendantes. C'est comme le rêve. On baigne là-dedans, veut pas.
T'sais, ben, depuis qu'on est tout petit, c'est ça qui est valorisé.
C'est ça qui est valorisé, puis c'est ça qui est encore, et je pense qu'il sera toujours. Je veux dire, tu regardes à travers l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu du monde qui était juste comme... C'était comme le party, puis genre... puis encore, tu sais, comme... Mais je sais pas si on devrait juger ça, mais ou juste...
C'est ça. S'en rendre compte.
S'en rendre compte, puis essayer de dire au monde... Mais de toute façon, tu peux pas dire au monde, ça sert à rien de rêver à ça. Parce que tu peux pas empêcher quelqu'un de rêver.
Non, puis tu peux pas dire à quelqu'un qui est dans une situation de pauvreté de dire « Ouais, mais ça sert à rien, là. » Tu sais, je veux dire, c'est pas plus d'argent qui va te rendre heureux. Je pense qu'il y a quand même un seuil à m'amener.
Ouais, mais j'ai du pain blanc pour les trois repas de la journée. J'ai littéralement faim. Peut-être que ça m'aiderait un tout petit peu.
C'est ça. Je pense qu'il y a un seuil à m'amener, justement, tu sais, qu'il y a comme une base, puis à m'amener peut-être qu'entre... tu sais, entre faire 200 000 ou 800 000, tu sais, je pense qu'à 200 000, tu peux être bien, là, très bien.
Ouais,
même,
ouais,
à 100 000,
ouais,
même à 50 000.
Ouais, mais
très, très bien.
Je suis totalement d'accord, là, mais tu sais, je veux dire, c'est comme, il vient un point où tu réalises que ce qui, tu sais, comme, les gens, ce qui les fait avancer, c'est leurs objectifs. Puis, ouais, tu sais, t'as mis où la limite, tu sais, de justement, comme, on est, moi, je suis fasciné par, on est tous tellement différents. T'sais, on est, ouais, ouais, tellement différents. Comme, on a des choses en commun, mais on est tellement fucking différents. Juste ce matin, j'étais en auto, puis il y avait quelqu'un, il était habillé d'une manière que je sais pas que je trouvais ça laid, c'est juste comme, je m'habillerais jamais comme ça.
J'aurais jamais pensé.
J'aurais choisi m'habiller comme ce vêtement-là pour sortir de chez nous. Mais comme, peut-être lui, il pense la même chose que moi, mais je suis comme, on est tellement différents. On a le même miroir à la maison.
Ouais.
Toi, moi, j'aurais fait jamais, je sors de même. Puis toi, t'as fait comme, fuck it, je vais au IGA comme ça. C'est, ouais, genre, habillé avec camisole weird. Mais en tout cas, c'est sale avec des espèces de...
C'est tellement, genre, un moment de réalisation, là, de faire...
Est-ce qu'on n'est pas pareil? Hey,
on est tellement différents.
C'est fou, hein? Ouais. Non, mais on dirait qu'on oublie cette affaire-là.
Ouais.
En fait, toute ma vie, je dis oublie, en fait, la majorité de ma vie, j'ai vécu en pensant que tout le monde était à peu près pareil. Mmh. Comme on voyait tout le monde à peu près pareil. C'est pour ça que quand quelqu'un disait quelque chose que je comprenais pas, j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, lui? Jusqu'en vieillissant, tu réalises, non, comme il y a vraiment du monde, on est différents, là. Comme il y a rien. On respire, on va aux toilettes, on mange, puis comme on aime notre famille, c'est ce qu'on a en commun. Et tout le reste, rien à voir.
Moi, un année, j'ai eu un... J'étais un peu gelé,
okay,
quand j'ai eu cette réflexion-là.
Ouais.
Mais je me disais, si, admettons là, que l'être humain, là, chaque être humain voit les couleurs différentes.
Okay.
On pourrait jamais le savoir.
Ben ouais, c'est
vrai. Parce que depuis qu'on est tout petit, tu sais, quand la professeure montre un carton bleu, puis elle dit ça, c'est bleu.
Ouais.
Mais bleu, là, peut-être que pour vous autres, bleu, c'est mon rouge.
Jusqu'à ce que quelqu'un fasse un accident de voiture, puis que là, on lui dise qu'est-ce qui s'est passé, comme, ben c'était vert.
Ben non, mais vert, ça va être la même chose.
Ok.
Parce que peut-être que ton vert, c'est mon rouge.
Ah, je comprends ce que tu dis. Oh yo, t'es dans un glitch, là.
Ah non, je te
dis. Déjà.
Puis une fois que j'ai réalisé, je me suis dit, hey, dans le fond, ça se peut.
Ah ouais, mais
il n'y a aucun,
ouais,
moyen de le savoir.
Il n'y a aucun moyen qu'on pourrait le savoir. Puis tu sais, tout ce qui est, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid, c'est des constructions sociales.
Ouais.
Tu sais, fait que mettons, moi, ce combo de couleurs-là est beau, mais c'est construit socialement. Fait que peut-être que pour vous autres, le combo de couleurs est complètement différent, mais qui est beau aussi.
Il y a une portion, je pense, de construit social, mais il y a aussi une portion de l'être humain est obsédé par la beauté. Mm-hmm. C'est tu le vois, tu sais. Comme juste dans
non
les...
mais parce que la beauté est tellement subjective selon les époques, selon le temps.
Oui, mais oui, subjective jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, comme il y a des, tu sais, comme il y a des gens, ils sont définitivement plus beaux que d'autres. Comme moi, je
pense pas que c'est selon nos standards en ce moment.
Je pense que ultimement on peut trouver quelqu'un de mille fois plus magnifique que quelqu'un qu'une autre personne que tout le monde va dire « Ah, c'est elle la belle personne ». Ça, je pense que 100%. Mais d'un point de vue, mettons, objectif, je trouve que j'ai un bit en ce moment que je travaille sur scène où je dis « Moi, j'étais fucking laid quand j'étais petit. » T'sais, aujourd'hui, je trouve que je me donne comme un espèce de 7 sur 10, là. Je trouve ça passe, OK, ma face. Mais comme quand j'étais petit, une petite face de morveux, là. T'sais, genre, avec mes dents croches. Puis des fois, je me faisais battre juste comme, t'es fucking laid! Puis là, j'ai un bit où je dis au monde, arrêtez de dire aux enfants, on est tous beaux égaux. Comme, non, il y a des gens, il faut qu'ils fassent du karaté. Comme moi, mon père m'a inscrit au karaté. parce que je revenais toujours en pleurant. J'ai comme, yo, il y a un gars qui m'a tapé à l'école. Puis il est comme, OK, il faut qu'on t'inscrive au karaté. Là, il faut que tu apprennes.
On peut rien faire pour ta face.
On peut rien faire
pour
ta face.
Pour te défendre.
Exactement. Exactement. Fait, c'est juste de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a comme. Il y a vraiment. Le monde est injuste. Le monde est fondamentalement injuste dans le sens que, comme. j'ai pas un gros cul. Tu comprends? J'ai un cul microscopique, comme j'aurais adoré avoir un esti de beau cul, là, tu sais. C'est genre juste un beau cul. Mais j'ai pas ça. Comme, je peux faire tous les squats que je veux. Ouais, ouais. J'ai encore un esti de cul de marathonien, là, tu sais. Genre juste une petite, et puis j'aime mon cul, là. Je dis pas qu'il est pas beau. Mais je fais juste dire, comme, des fois, tu regardes ton corps, tu regardes ta face, tu regardes tes aptitudes, tu regardes ton talent, ta beauté, puis tu dis, OK, genre, je suis mieux de dealer avec ce que j'ai parce que, il y a des gens, ils sont plus beaux que moi, puis moi, j'accepte cette réalité-là.
Mais ça, c'est au 100%. Ça, c'est au sein d'une société qui a certains standards, là, tu sais. Ouais. Mettons ton cul. Ouais. Mettons,
j'aime qu'on va parler de mon
non,
cul.
Non, mais mettons les culs, là.
Si on était en Asie, t'aurais un sacré cul, ouais. Tu comprends? C'est sociétaire, les culs, là.
Là, tout le monde va m'écrire, il est beau ton cul. Là. C'est toujours ça que le monde
si vous trouvez le cul d'Adib beau, écrivez ça en commentaire.
Non, mais.
Qu'est-ce que je raconte?
Mettons qu'on parle de cul, là. Mettons que quand j'étais au secondaire là.
Ouais. Même ça a changé dans notre lifetime là.
Moi je trippais sur les petits culs.
OK,
les
OK.
Avec les petits culs là, on appelait ça les culs racing.
OK, OK, wow. Bon.
C'était ça. Nous autres c'était ça, c'était genre hey, la fille là, un beau petit cul, tu sais, fallait que. Puis là tu vois aujourd'hui,
c'est comme pis, l'obsession inverse.
C'est l'obsession. Appelons pas ça une obsession.
Obsession c'est est un grand mot. C'est la maladie mentale.
Que mes standards et mes goûts par rapport à ça ont changé.
Oui.
Probablement parce que dans l'imagerie qui nous est véhiculée.
Parce que Nicki Minaj est arrivée.
Parce que Nicki Minaj est arrivée, puis Kim Kardashian est arrivée.
OK.
Puis que les Insta Babe là, et compagnie. Ou est-ce que c'était plus, de tout d'un coup, c'est plus des
courbes.
Des courbes, là, tu sais, qui. Puis là, Chris, puis là, mes goûts ont évolué. Fait que, tu sais, mais c'est vraiment une affaire de société, puis de date du temps, puis qu'est-ce qui est valorisé, puis qu'est-ce qui est considéré comme beau.
Assurément, ce à quoi on est exposé va jouer sur qu'est-ce qu'on va trouver. Ouais.
Mais après ça, je pense qu'il y a quand même.
Un beau universel.
Un beau universel.
Ça s'appelle Sistine, mettons. Là. Que même en ce moment, on rentre dedans, je l'ai jamais fait, là, mais qu'apparemment, on rentre dedans, puis que le même sentiment de.
De beauté
complète est le même que ceux qui rentraient quand ça a été fait.
OK.
À moins que
ce soit parce qu'on s'en a fait parler.
Mais quelqu'un pourrait trouver laid ce que ça représente, tu sais. Mettons un exemple, un coucher de soleil. Là. Un coucher de soleil là, où il y a plein de couleurs et ça se mélange. T'as l'impression que le ciel est en feu puis que j'ai... J'ai jamais rencontré quelqu'un qui ça lui donne envie de vomir.
Je comprends.
Un coucher de soleil, tu sais, un événement naturel comme ça aussi, ou une aurore boréale, mettons. Là, qui va faire, hey, moi, les aurores boréales, là, ça me donne de l'urticaire, je trouve ça dégueulasse. On dirait qu'il y a certaines choses comme ça.
Mais tu sais, en même
que
temps,
la beauté est dans l'objet, là, et pas juste dans l'œil de celui
qui regarde. Mais ça, c'est parce que, je veux dire, mettons qu'on prend, en parlant de ces exemples-là, une rose, tu sais. Une rose, c'est beau. Il n'y a personne qui voit une rose qui fait « ça me donne envie de chier de voir ça », tu sais. Mais aussi, depuis que l'être humain a commencé à mettre sur papier quelque chose, ça a été belle comme une rose. Des couchers de soleil, combien de fois, man, des couchers de soleil, c'est représenté comme étant le summum du beau dans l'art, dans ce que tu vois, dans la littérature ou dans les films. Tu sais, même chose avec des aurores boréales. Les aurores boréales, toujours, à chaque fois que ça a été représenté, c'est un cliché qui s'accumule.
Quand tu le vis, là, tu sais, quand t'es présent, t'es témoin de ça, est-ce que...
Pour moi, je veux dire,
tu trouves ça beau parce que tu t'es fait convaincre que c'était beau?
Ben, peut-être parce que tu t'es fait convaincre de la rareté, de la pureté, de la beauté de ça, tu sais.
Je pense qu'il y a quelque chose qui résonne fort en nous quand on est témoin de la beauté. T'sais, je pense qu'il y a des beautés universelles, effectivement. Je pense qu'il y a vraiment aussi comme autant des objets que des décors, que des paysages, des gens, des individus. Tu vas tomber sur quelque chose, quelqu'un, puis tu vas être comme « wow », puis une grande majorité des gens vont être comme « wow ». Puis je pense que ça fait partie de ce qui motive l'être humain, la beauté. T'sais, on veut des belles affaires autour de nous, quand on tombe amoureux, on veut trouver la personne belle ou on veut être attiré par sa beauté. Tu sais, c'est comme ça revient. C'est vraiment un grand motivateur chez l'être humain.
Ouais. Puis, tu sais, je pose les questions, mais parce que je réfléchis à voix haute, là, mais possiblement que c'est vrai. Tu sais, pourquoi est-ce que tu arrives dans un endroit comme, mettons, un champ bucolique, puis que là, t'es apaisé, puis que là, t'es juste bien. Possiblement que ça a un lien avec ça.
Absolument, absolument. Puis je suis sûr qu'il y a des niveaux de notre champ de perception qui réagit avec la beauté d'une manière très... tu peux pas mettre le doigt dessus, tu sais, c'est comme très métaphysique, là. Mais ça semble être très, très présent à travers l'histoire de l'humanité, là, comme la recherche du beau, puis faire quelque chose de beau, puis...
Ouais. Il y a des dialogues de Platon qui sont incroyables
sur la beauté, OK.
Vraiment, vraiment, tu sais, justement, puis... Tu sais, on n'arrive jamais à déceler c'est quoi, mais par le dialogue... Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Fait que là, ça réduit la zone jusqu'à ce qu'on aille presque le doigt dessus. Mais finalement, on l'a jamais, là. Mais c'est vraiment... puis mettons chez Platon, puis là, je sonne comme un expert en philo.
Non, pas du tout.
Là. Genre, j'ai fait ma philo au cégep comme tout le monde. c'est une des sources de la philosophie, là. Tu sais, c'est la beauté, là.
Ouais.
Comme, c'était l'étonnement puis la beauté. Ouais. C'était comme... à la source de tout, là, de la réflexion.
Mais parce que la vie, autant c'est souffrant, c'est fucked up, c'est beau. Comme quand tu prends le temps de t'arrêter et regarder les choses telles qu'elles sont, puis c'est, la beauté prend plusieurs formes. Puis c'est comme si on avait réservé ce genre de conversation-là à la poésie ou justement à la philosophie, mais comme juste quelqu'un qui s'arrête et qui regarde autour de lui. Puis le monde, c'est fucking... C'est fucked up, là, c'est beau. Il y a beaucoup de laideur, mais c'est beau.
C'est une des choses qui nous rejoint tous.
Ouais.
Tu sais, mettons quelqu'un... tu parles justement à un philosophe qui a fait des post-doctorats en philo ou quelqu'un qui a un job bien normal, qui ne s'exprime pas plus qu'il faut.
Mm-hmm.
Quand ils vont être mis face à quelque chose de beau, les deux vont avoir la même sensation.
Ouais.
Ils seront pas capables de l'exprimer de la même façon,
ouais,
mais ils vont ressentir la même chose.
Mais ils trouveront pas toutes les mêmes choses belles, par exemple.
Mettons, si on reprend l'exemple du coucher de soleil, les deux vont être devant un coucher de soleil.
Ça, probablement.
Puis ils vont faire... Ils vont avoir le même feeling.
Mais la beauté en art, par exemple, est tellement subjective, là.
Ouais.
Puis
juste,
vrai.
Tu fais, tu sais... Si tu fais l'histoire de l'art, là, on dirait que c'est l'histoire du plus... représentatif, tu sais, justement, la chapelle Sixtine, là, tu sais, c'est de peindre, tu sais, vraiment les choses, mais tu sais, d'une manière
réaliste.
Très réaliste, là, tu sais, même si c'est des anges et compagnie, tu sais. Puis ça, c'était comme le summum du beau, tu sais.
Mm.
Puis là, plus l'histoire avance, plus tu vois, OK, ben là, les formes sont déformées, là, si. Ouais, mais ça, c'est beau parce que, tu sais, chez les artistes-là, ils vont dire, ben, tu sais, ben ça, c'est plus proche du vrai, de l'intériorité, tu sais. Moi, ça. C'est une représentation pas du monde extérieur que j'observe, mais de mon monde intérieur. Donc,
il faut
c'est plus
croire
vrai.
À ces choses-là. Il faut croire à ces choses-là.
Puis, tu sais, puis plus tu avances justement dans l'histoire, tu passes du plus figuratif au plus abstrait, tu sais.
Ouais.
Puis, à un certain, puis soit en musique, ou que ce soit en art visuel ou en quoi que ce soit, c'est. Tu arrives à un point où est-ce que c'est. Carré blanc sur fond blanc, là, tu sais, qui était une toile blanche, là.
Moi, c'est ma mère qui m'a fait réaliser que on avait un monde intérieur qui était à la recherche de comprendre la beauté et comprendre la sensation de la beauté à travers une œuvre abstraite. Tu sais, comme ma mère, c'est pas une femme qui va dans les musées. De ce que je sais, elle a jamais été au musée avec nous. Elle a jamais. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va jamais acheter une toile à la maison ou tu sais. Puis à un moment donné, elle est tombée sur une toile d'une œuvre abstraite, puis elle est restée devant, puis elle essayait de la comprendre, puis d'exprimer comment elle se sentait. Puis j'étais comme.
Ça l'a touchée, là.
Ouais, ça l'a touchée, puis elle, à l'intérieur, elle voyait des affaires, puis elle voulait comme l'exprimer, puis j'étais comme, yo, ma mère, c'est pas une personne qui va au musée, puis check, elle fait face à une toile, puis naturellement, instinctivement, la beauté. Que ça représente pour elle, ça évoque quelque chose en elle.
Ouais.
So, c'est ça aussi, je pense que c'est ça aussi qui rend la beauté fucked up, c'est que ça... Oui, il y a des formes de beauté universelles, il y a aussi des formes de beauté qui évoquent quelque chose à l'intérieur de toi, et ça te connecte à l'objet ou à la personne d'une manière assez puissante. Ouais. Là, t'sais, c'est fou. Ouais, c'est assez... Je suis allé au musée, il y a comme un an, je sais pas, j'étais à quel musée. J'adore, chaque fois que je vais dans une ville, je check un musée, puis je vais au musée. Puis genre, j'allais dans un musée, je me rappelle plus c'est qui l'artiste, je l'ai noté, mais c'était juste plein de panneaux, des couleurs différentes, mais des astis de gros panneaux, là, des espèces de... j'ai envie de dire genre 20 pieds de haut, OK? Mm. Ça se situe loin.
Des énormes panneaux.
Des énormes panneaux. C'est vraiment, ouais, c'était vraiment... 20 pieds, c'est-tu beaucoup?
C'est ben,
quand même assez, ouais. Comme
c'est à peu près comme le plafond ici.
OK, parfait. Bon, mais ben, c'était à peu près ça.
Non, ça, c'est moins que 20 pieds. Ça, c'est genre 10 pieds.
Ça, c'est 10 pieds.
Mais genre, c'est probablement du mur à l'autre mur.
OK, ben alors, je dirais comme 15 pieds, OK? 15 pieds de haut. Puis chaque panneau avait comme une couleur différente. Puis je te jure, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'avais l'impression d'être high. J'avais l'impression que je regardais comme... Je passais d'une couleur à l'autre, puis je comprenais pas. Je suis resté là genre 30 minutes. Puis à ce jour, à chaque fois que je repense à toutes ces couleurs-là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais tu sais, c'est sûr que lui, l'artiste qui a fait ça, là, chaque étape de cette œuvre abstraite, il a dû tellement attendre qu'il sente que c'est la perfection pour lui, qu'il sente que c'est exactement ça qu'il fallait. Je crois pas qu'il est juste arrivé et il a mis du rose sur un panneau. Je pense qu'il a comme il a travaillé son rose, qu'est-ce que la couleur pour lui, ça fasse résonner quelque chose en lui, puis... Ça donne, c'est-tu que ça a résonné chez moi. Moi, je suis resté regarder ces panneaux-là. Puis j'étais le genre de gars avant qui était comme, hein, tu mets de l'art abstrait.
Je comprends pas l'art, ouais, c'est ça.
Puis maintenant, je suis comme, oublie ça, mais l'art abstrait, je la regarde plus que l'art pictural parce que ça parle à tout un monde intérieur qu'on a avec lequel on n'est pas trop en contact, tu sais, dans le monde, la vie de tous les jours.
Ouais. Deux choses. Premièrement, c'est clairement plus que 10 pieds.
Ouais, c'est ça. C'est genre 16, oui. 15-16.
Ouais. Ouais, OK.
Puis, deuxièmement, je suis en train de lire La femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette. Okay. C'est vraiment un excellent roman. T'sais. Puis, elle raconte l'histoire de sa grand-mère maternelle, qui, elle, faisait partie du mouvement automatiste là, dans les années 40-50, là, t'sais, d'artistes qui. T'sais, elle, c'était Marcel Barbeau, qui était peintre, son mari. Puis, en tout cas, puis. C'était vraiment la pulsion. Là. C'était comme, on se pose pas de questions. Justement, que tu dis le rose, là, c'est comme, on garoche tout sur la toile par instinct. Puis ça, c'est la chose qui est la plus vraie. Là, parce que c'est venu d'une pulsion intérieure automatique. Tu sais. Puis il y a un passage dans le livre, justement, trouvé ça fort. Justement, tu sais, elle, son mari part travailler. Puis il y a une toile qui est vierge qui traîne, tu sais. Puis là, tu sais, les autres sont full, justement, sont full dans ce courant-là d'automatisme. Puis là, elle dit, Chris, j'ai juste le goût de peindre un oiseau, tu sais, un bel oiseau. Fait que là, elle se met à peindre son oiseau. Puis elle est contente, puis elle est fière, puis elle le trouve beau, tu sais. Puis là, l'autre, il rentre, puis il fait genre, tellement codé, genre, tellement.
J'ai vécu la même chose.
Ah ouais, hein?
Ouais, je te jure.
Puis finalement, il peint par-dessus parce qu'il trouve que l'oiseau, tu sais, c'est ben trop.
Wow.
C'est déjà vu, c'est déjà fait, tu sais. Tu sais.
Mais ça,
t'as le droit de trouver ce que tu trouves beau, tu sais.
Ouais, t'as le droit, mais tu vois qu'est-ce que le gars lui a dit, là.
Qu'est-ce que t'as vécu comme ça?
Moi, j'ai vécu une affaire, genre, il y a comme... Je sais pas ce qui m'a pris il y a 5 ans, genre... J'ai commencé à peindre. Puis je peignais des toiles abstraites. Je sais pas ce que j'avais, mais c'est comme... Dès que je me mettais à peindre, je partais, là. Je partais tellement loin, comme un truc que... qu'aucune autre forme d'art m'a fait vivre. Là. Mon vrai high, mon vrai fixe artistique, c'est écrire parce que genre je pars dans des flows puis genre j'oublie que j'existe pendant genre comme une heure ou deux puis là je reviens sur terre. Mais peindre, c'est encore plus deep que ça. Puis j'ai peint une toile puis là, j'ai un ami qui est venu chez nous. Non, c'est même pas ça qui s'est passé. J'ai peint une toile puis je la trouvais tellement laide, tellement dégueulasse, je l'ai jetée. OK, aux poubelles, avec mes poubelles. Puis 5 secondes après que je sois monté chez nous, il y a plein de monde, des jeunes. Je dis des jeunes, je pense que j'avais genre 27. Puis ils avaient l'air d'avoir genre 18, 19. Puis ils sont arrivés sur ma rue. J'habitais sur Debulion à l'époque. Puis ils criaient, « Why the fuck would someone throw that? » Comme, pourquoi est-ce que quelqu'un jetterait ça? C'est tellement beau. Puis j'étais comme, « Ah, c'est la chose la plus laide que j'ai vue de ma vie. » Mais ça m'avait fait du bien de le faire. Mais je trouvais ça hideux, là, tu sais. Puis eux, ils trouvaient ça beau. Puis en tout cas, fait que là, ça m'a comme encouragé. J'ai fait, sais-tu quoi? Je vais en refaire une autre. J'en ai fait une autre. Puis à un moment donné, j'ai un ami qui est rentré chez moi. Le gars dont on parlait tout à l'heure, que tu m'as vu faire des Stampede Joe. Puis il est venu, puis il a vu mes toiles, puis il a fait, qu'est-ce que je veux que t'exposes à mon café? Il m'a dit, je te donne jusqu'au mois d'août, tu vas exposer, je veux 10 toiles. Moi, je trouvais que, je suis pas un peintre, mais je trouvais que le défi, c'était le fun, tu sais. Puis je me suis vraiment investi. Puis j'ai peint pendant comme 2 mois. J'ai peint 10 toiles. Puis j'ai pris ça très au sérieux. Je les ai accrochées. Puis genre, comme j'en ai vendu, j'en ai donné, il y en a qui j'ai des amis qui voulaient vraiment comme je peux-tu avoir ta toile, je suis comme yo c'est de la poubelle genre mais comme j'étais
j'en
vraiment
j'étais une pareille voilà 6 mois
ouais puis j'étais vraiment content d'avoir fait ça puis il y a un peintre qui allait à ce café là mm-hmm. puis à un moment donné, il est venu me voir, il me regardait comme ça puis il était comme il a fait un commentaire genre c'est dégueulasse qu'est-ce que tu fais, il a juste fait mais lui c'est un peintre genre dans une autre vie c'était comme un peintre professionnel puis là il fait plus ça visiblement okay. là il travaille dans une papeterie puis là mais avec tellement d'amertume oh, il m'a dit dégueulasse qu'est-ce que tu fais, mais comme c'est un monsieur de 70 ans là qui est venu me dire un gars de 27 ans c'est dégueulasse qu'est-ce que tu fais, puis là moi ça m'a tellement fait mal, mais j'étais comme je sais pas s'il avait dit dégueulasse ou il avait dit genre quelque chose comme juvénile, je pense qu'il avait dit c'est tellement juvénile qu'est-ce que tu fais, puis là j'avais fait genre ouch, puis ça, c'est, ça fait partie du parcours, du chemin de se faire dire que t'es nul à chier, ouais. là, par quelqu'un que toi, tu peux même regarder avec des yeux un peu admiratifs parce que tu sais que c'est un professionnel ou tu sais. Mais comme, à ce jour, je médite encore ce genre d'être humain, tu sais, comme, moi, je veux jamais être ça pour quelqu'un. Non. Je veux jamais être ça. Sur le chemin de quelqu'un, la personne qui lui a fait douter de la valeur de son bonheur à faire quelque chose. Tu sais, comme, t'as le droit de faire quelque chose puis pas être un expert. T'as le droit de faire quelque chose puis pas être un professionnel. Tu sais, c'est pour ça que des fois, il y a genre des... C'est comme les acteurs partent en couille, là, parce que genre, oh, on a donné un rôle à quelqu'un qui est pas acteur, puis là, voyons donc, nous, on a une formation. Je suis comme, ferme ta fucking gueule. Comme, laisse le monde vivre leur vie, laisse les gens travailler. Comme, toi, si t'as envie que ce que toi, tu fasses... ça soit beau puis bon puis que toi tu respectes ça, fais-le, mais laisse le monde vivre leur vie.
T'sais, si t'aimes pas quelque chose, t'es vraiment pas obligé d'aller à la personne puis lui dire en pleine face. Là.
Ouais.
Puis tu sais, lui probablement qui a passé sa vie à s'intéresser à l'art, à connaître l'art puis à être dur avec lui-même parce que pour vouloir s'améliorer puis être critique puis déguiser, tu sais, être artiste, t'aiguises ton sens critique tout le temps parce que tu veux t'améliorer, tu sais. Puis probablement que toi en tant qu'humoriste, probablement que des fois tu vas voir des shows. Puis tu te dis, ah, ben ça, j'aime pas ça, ou ça, je trouve pas ça bon, ou telle raison. Puis tu vas voir d'autres, puis t'aimes ça. Parce que t'aiguises ton sens critique, puis tu fais le tri de ce que tu trouves bon, puis pas bon.
Mais moi, j'ai fait. Moi,
après ça, t'es pas obligé de le dire à la face de la personne, de dire, hey, c'était vraiment mauvais ton show.
Moi, ça fait 13 ans que je fais de l'humour. J'ai commencé à 19 ans. Puis quand ça fait 10 ans que tu fais quelque chose, à un moment donné, tu commences à avoir une perception, genre, je considère que je pourrais vraiment. Mettons, si on m'invitait sur un conseil là, pour parler d'humour puis donner mon expertise, là, je considère que j'en sais assez pour me considérer comme quelqu'un qui peut être legit, OK?
Un expert en humour.
Je pense que je suis un expert en humour parce que ça fait trop longtemps que je suis obsédé par ça.
Ouais.
Je veux pas m'auto-flatter et dire que je suis un expert, mais ça fait trop longtemps que je suis dans ce milieu-là. Puis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais comme moi, je suis rendu au point où je sais tellement ce que j'aime puis tellement ce que j'aime pas en humour. Mais je m'en fous de ce que j'aime. Ça me dérange pas que quelqu'un fasse quelque chose que moi, j'aime pas. Parce que j'ai un respect sans limite pour quelqu'un qui fait ce qu'il y a à faire. C'est quelqu'un qui se lève le matin puis qui prend son rêve en main puis qui va le faire, là. Pour moi, ça vaut plus. Juste ça, ça vaut plus que toute l'œuvre que tu peux créer. Juste le fait que tu t'es levé à chaque matin puis tu te dis, je donne une chance à ce que j'ai à faire.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est ça la... C'est le vrai take-home message. Vivre, c'est tough. C'est dur. Il n'y a rien de facile dans la vie. Puis comme, accéder à ses rêves, c'est compliqué. Puis ça vient avec beaucoup de blessures. Puis ça vient avec des difficultés, de la trahison, de la souffrance. J'ai du respect pour n'importe qui fait ce qu'il y a à faire. Fait que c'est pour ça que je dis, je veux pas être ce monsieur-là. Pas parce qu'il avait raison. Moi, je pense que mes toiles... Il était le fun, tu sais, pour un gars que c'est la première fois. Je pense que c'était cool. Pour preuve, il y a des gens qui me les ont achetés. Je pense que lui avait comme une amertume que tu vois dans tous les milieux. Surtout, on côtoie les milieux artistiques. Les milieux artistiques, il y a beaucoup de gens amers parce qu'ils pensent qu'ils ont un talent immense, mais ils comprennent pas que c'est rien dans la balance, le talent. C'est rien. C'est le travail, c'est l'intégrité, c'est être honnête avec le monde, c'est collaborer, c'est s'éduquer, apprendre, se relever, la résilience. Tu sais, la résilience, ça fait tellement partie de la game, apprendre à se relever, parce que c'est juste des... comme je disais tantôt, c'est que des échecs. Fait que tu sais, je pense que ce gars-là, c'est les gens qui ont abandonné leur rêve, c'est eux qui sont méchants. C'est eux qui vont aller voir les gens. Puis on dit misery loves company. Mm-hmm. Genre, quelqu'un qui a abandonné ses rêves, il va aller voir quelqu'un puis il va essayer de lui transmettre sa maladie.
Mm-hmm.
Il va essayer d'aller briser son rêve aussi. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont comme « Ah, mais comment les gens sont si méchants sur les réseaux sociaux pour m'écrire « Je fucking poche » puis blablabla. » Non, il est pas méchant. Il a abandonné ses rêves. Puis il est pas bien. Il est pas bien. Puis il veut te donner la même maladie. Mais comme « Yo, éloigne-toi de 2 mètres de distance, là, tu comprends? » 2 mètres de distance, de distanciation sociale avec les gens qui sont... C'est une maladie, abandonner ses rêves. C'est une vraie maladie. Ça rend les gens misérables. Vraiment, là. Vraiment, ça les rend... Ça les rend fâchés, ça les rend très, tu sais, comme... J'adore l'idée que... Ben, pas l'idée, mais je trouve la métaphore, la poésie... J'ai pas le droit de dire ça, c'est le plus grand monstre de l'histoire de l'humanité, mais le fait qu'Adolf Hitler voulait être un artiste puis que, genre, il s'est fait shut down son opportunité, puis il est devenu juste le... Je corrèle pas exactement les deux affaires, là, ouais. Mais je trouve ça fascinant qu'un gars qui voulait peindre... Il a institutionnalisé le génocide le plus fucked up de l'histoire de l'humanité. Ouais. Comme, il y a quelque chose là-dedans qui ça, puis quand il y a un documentaire fascinant, guys, que vous devez regarder si vous ne l'avez pas vu, ça s'appelle Apocalypse.
OK.
Il y a Apocalypse, Staline, Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, il faut que vous regardiez ça, puis celui d'Hitler aussi, puis celui de Staline. Regardez les deux.
Regardez la saison complète.
C'est Charles Beauchesne qui m'a conseillé, l'humoriste Charles Beauchesne, ouais. Pendant la pandémie, puis je les ai toutes regardées, sauf la Première Guerre mondiale, je suis rendu là. Puis Hitler, esti, tu le vois que il se préparait comme un comédien.
Ouais.
Genre ses textes là, il se préparait comme il voulait faire une performance, il voulait faire une prestation. Il était sa poudre, il était sur le crystal meth. Il y a des vidéos de lui qui est high sur le meth pendant les Jeux Olympiques. Puis comme il peut, tu sais, comme il vivait une vie d'artiste qu'il a pas eu. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mm-hmm. Mais comme moi j'en connais beaucoup des artistes sa poudre. Je dis genre comme le monde y pense, en tout cas. Mais tout ça pour dire, je pense vraiment que les gens qui ont abandonné leur rêve, c'est eux qui sont méchants. C'est eux qui vont aller voir du monde puis dire des choses qui se disent pas, dire des choses qui sont horribles. Ils vont essayer de transmettre ça aux autres. Puis comme j'ai un respect sans limite pour les gens qui se réveillent le matin puis qui vivent leur vie comme tel qu'ils l'espèrent. Tu sais.
Mm-hmm.
Ouais.
Adib.
Ouais.
Merci. Infiniment d'être venu nous parler.
On dirait que j'avais prévu que c'était la fin puis que genre ouais, je voulais finir sur une note, une envolée.
Ben je pense que c'est un bon message.
Ouais, ok.
Envoyé suite à toute la discussion qu'on vient d'avoir.
Yo, c'était le fun, guys.
C'était vraiment fun.
Ouais, merci beaucoup. Let's go.